Bien, mais je vais débuter si vous voulez bien. Alors, mon propos, ce sera le suivant. Je vais parler d'orientation scolaire et surtout des problématiques que ça pose dans la relation avec le monde de l'emploi, en tout cas le monde du travail. Je vais faire relativement court puisque je pense que l'enjeu, il n'est pas de parler d'orientation scolaire exclusivement. Et donc, je vais plutôt poser mon propos comme le fait que la scolarité initiale et l'orientation scolaire, c'est la première brique d'un ensemble, qui est l'orientation tout au long de la vie. Je ne considère pas, pour ma part, que dans le cadre du déterminisme habituel, l'orientation scolaire préside à toute chose et je ne vis pas l'orientation d'adulte, la formation continue, comme un pis-aller, mais comme une continuité. Voilà, donc je vais faire relativement court pour quelqu'un de la formation initiale. C'est sûr que c'est le mien. Parce que comme on est enregistré, qu'on ne me prête pas des propos qui ne seraient pas les miens. Et que je ne les prête pas aux autres. Alors, quelques notions et pas beaucoup de statistiques. D'accord? Vous n'êtes pas statisticien de formation, rassurez-moi. Non? Ça va? D'accord. Bon, vous êtes statisticien. Non? Non, parce qu'on en a des chiffres, on en a plein, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est un sujet très étudié. Alors, parler d'orientation en formation initiale, sans trop rentrer dans les dispositifs, c'est dire quand même quelques petites choses que vous savez ou pas. La première chose, c'est qu'on nous rabat les oreilles sur la question de la relation école-entreprise depuis bientôt 40 ans. J'ai été 7 ans chargé des relations école-entreprise au rectorat de Poitiers. Donc, c'est un sujet que j'ai eu l'occasion de traiter. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont non dites ou non sues en réalité sur la façon dont les choses s'organisent en formation initiale, sur la question de l'orientation et surtout de l'adéquation. Je vais utiliser le terme adéquation emploi-formation. Quelques notions d'abord. La première chose, c'est que tous les diplômes de formation professionnelle et technologique qui sont dispensés en France par les ministères en général et par le ministère de l'Éducation nationale en particulier, sachant que le ministère de l'Agriculture fonctionne de la même manière, ce sont des diplômes qui sont co-élaborés avec les syndicats professionnels. Donc aujourd'hui, tout jeune diplômé d'un CAP, d'un bac pro, d'un BTS, d'une licence professionnelle universitaire et autres, en fait, s'appuie sur la base d'un diagnostic qui est réalisé en commun entre les ministères et les représentants de branche. Et dans ce processus-là de conception des diplômes, on y trouve également les syndicats de salariés, les syndicats d'enseignants. Donc il faut savoir qu'on est sur des logiques quadripartites dans l'élaboration des diplômes. Et c'est vrai qu'on entend très souvent, et vous l'avez peut-être vécu ou entendu, dire que les diplômes sont déconnectés de la réalité du marché du travail. Ils ont été co-élaborés. C'est la première pierre que je voulais poser dans la discussion. Deuxième notion, mais comment ça se fait qu'il y a des jeunes qui ne trouvent pas de travail et pourquoi il y a des formations qui aujourd'hui sont proposées et qui ne débouchent sur rien? Vous avez vu, je reprends les phrases souvent entendues et que vous pouvez penser vous-même. Alors, comment s'élabore la carte des formations? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on choisit à un moment donné d'ouvrir une filière à tel endroit et pas à tel autre? En fait, la construction d'une carte des formations, c'est un processus complexe. Je pense que Christophe y reviendra assez largement tout à l'heure, mais je vais parler de la carte des formations initiales. L'idée est relativement simple, en fait. On a d'abord un premier problème qui est le suivant. En France, il y a un problème majeur pour nous, j'utilise le terme sciemment, c'est que l'âge de la scolarité obligatoire, qui est de 16 ans, et l'âge du statut d'adulte en France ne sont pas les mêmes. Et l'essentiel de nos difficultés réside en fait en termes de scolarité sur la tranche 14-16 ans. Puisqu'en fait, un élève doit obligatoirement être scolarisé jusqu'à l'âge de 16 ans en France. Il n'est pas adulte à l'âge de 16 ans, il est placé sous la responsabilité familiale et donc en même temps il a une liberté de choix puisqu'on est sur la construction d'un adulte. Et ça c'est notre premier problème parce qu'en fait on travaille à cet âge-là sur la question de l'autonomie, de la capacité à prendre des décisions dans un certain nombre de champs de contraintes et pourtant il faut bien que cet enfant le scolarise jusqu'à l'âge de 16 ans, bon gré, mal gré. Et donc, lorsqu'on a affaire à des adolescents, c'est-à-dire sur la structure d'âge, on va dire 12, 14, 15 ans, ils vivent beaucoup et souvent la question de la formation et de l'orientation comme une contrainte. Et donc, à partir de là, c'est à ce moment-là qu'on leur pose la question des choix qui semblent déterminer l'ensemble de leur vie. Mon chéri, qu'est-ce que tu vas faire après ta classe de troisième? Et si tu te rates, ta vie est fichue. Et donc, il faut que tu y réfléchisses. Et c'est à cet âge-là que l'adolescent est en construction, donc ça pose le maximum de problèmes, et on choisit la période la plus difficile de la vie d'un être pour lui poser les questions les plus fortes et les plus lourdes, ou en tout cas celles qui vont lui sembler les plus lourdes. Et donc, c'est vraiment autour du socle 13-14 ans que les problèmes se posent, puisqu'on leur demande de se projeter sur un marché du travail qui est extrêmement mouvant, sur des métiers qu'ils ne connaissent pas. Ça n'excuse rien, mais simplement, ça veut dire que dans l'élaboration de la carte des formations, c'est-à-dire des possibilités post-troisième, il faut qu'on puisse offrir à l'Éducation nationale et dans les autres ministères, et dans la formation privée également, une offre de formation qui à la fois soit assez large. Puisque si on crée des pôles extrêmement spécialisés et que les jeunes s'engouffraient là-dedans sans choix préalable, il y aurait un effet de rejet encore plus fort. Et en même temps, il faut bien les aider à commencer à tracer une route. Alors, le système actuel est ainsi fait. En fait, la carte des formations, c'est un processus continu dans lequel des établissements scolaires, des lycées professionnels, des CFA, des lycées technologiques ont une offre de formation. Ils interrogent plus ou moins fréquemment le marché du travail pour savoir s'il y a adéquation. Et donc, beaucoup d'études sont menées sur l'insertion professionnelle des jeunes diplômés pour se poser la question de savoir si une formation sur un territoire donné est encore à peu près adaptée au marché du travail. Alors, les problèmes que ça pose de manière sous-jacente, très, très caricaturalement, la première, c'est la notion d'adéquation. Puisqu'en fait, le besoin des entreprises et des secteurs économiques évolue plus vite que l'offre de formation. Il nous faut en moyenne 5 ans pour créer un diplôme, pour le mettre en place et pour avoir les premiers jeunes qui sortent sur le marché du travail. Donc on peut vivre ça au niveau du CAP jusqu'au niveau du master. On a des masters qui sont créés et 2 ans après leur création qui sont en fait obsolètes en termes de contenu dans des champs technologiques qui évoluent très vite, l'informatique, etc. La deuxième chose, c'est la dynamique économique du territoire. Est-ce qu'il y aura du boulot pour tout le monde et pour tous les jeunes conformes? Alors, quelques chiffres. Hein. Nous sortons sur le marché du travail, rien que pour l'éducation nationale, 8 000 jeunes en 2010 diplômés qui vont donc se présenter sur le marché du travail. 8 000. C'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. 8 000, il faut savoir que sur ces 8 000, par exemple, cette année, 4 500, c'est-à-dire 56% des jeunes qui se présentaient sur le marché du travail en étant diplômés, ont trouvé un emploi 7 mois après. Alors, 56%, on est sur le verre d'eau à moitié vide, à moitié plein. Et donc, on a un problème d'adéquation et de se dire, ben, en fait, pour quel métier on forme, quelle dynamique, quel secteur on forme. Et c'est comme ça, en fait, c'est sur cette réflexion-là que, on choisit à un moment donné d'attribuer, d'affecter un diplôme, une formation sur un établissement scolaire. Donc, premier problème, la question de l'adéquation, c'est-à-dire est-ce que ça existe vraiment? Et puis, deuxièmement, la dynamique des emplois régionaux et leurs évolutions. Alors, on a parfois des bonnes surprises, hein, c'est-à-dire des secteurs économiques qui repartent très vite à la hausse et qui nous disent, mais qu'est-ce que vous faites? Vous sortez pas assez de jeunes diplômés dans ma filière. D'autres nous disent, bah, écoutez, moi je connais, enfin mon métier, ce qui est un métier hyper spécialisé, mais très 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 important, vous ne formez pas de jeunes dans ce domaine-là, donc il faut créer des diplômes. Et donc, à partir de ces demandes-là, bah, se compose un patchwork de formation dont on mesure les effets en fait en termes d'insertion à 5 ans. Alors, on a essayé beaucoup de méthodes hein, pour essayer d'améliorer l'efficacité et le ratio d'efficacité de l'insertion des jeunes. À ce stade-là, je passerai la parole sur les questions de formation continue. Mais en substance, la formation initiale sur les questions d'adéquation emploi-formation et d'orientation ne peut travailler que sur du moyen et du long terme, c'est-à-dire sur des évolutions à 5 à 10 ans. Et ça ne correspond plus et de moins en moins à l'évolution du marché du travail, qui est de plus en plus réactif aux contraintes économiques et à des grands enjeux. Et donc, à partir de là, effectivement, un des enjeux majeurs pour nous, c'est de construire une offre de formation plus réactive, qui puisse s'ouvrir et se fermer relativement vite, ou qui puisse se déplacer, c'est-à-dire qu'on puisse fermer une section à une zone, sur une zone du territoire pour l'ouvrir ailleurs, voire la supprimer. Et je terminerai par ça. Ça pose un problème quand même de fond, qui est le suivant. Former les jeunes à un métier, c'est pas seulement les former à ce métier-là, c'est les former à la palette des métiers possibles dans leurs 30 à 40 prochaines années. Premier élément. Et deuxièmement, c'est sans cesse se poser la question de qu'est-ce qui relève du bagage culturel minimum, qu'est-ce qui relève de la compétence transversale qu'ils pourront appliquer dans ce métier-là ou dans un autre, et puis comment on peut faire en sorte que, ils continuent d'apprendre tout au long de la vie, ça fera la transition, mais très sincèrement, c'est là qu'est l'enjeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, sur les métiers de l'environnement, les métiers verts, on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut former des jeunes à poser sur les toits des panneaux solaires, sachant qu'il y a du boulot. En même temps, il suffit que la réglementation change et le boulot disparaît très très vite. Est-ce que les diplômes sont faits pour ça? Et puis
Est-ce qu'il y a
même,
vraiment du boulot?
est-ce qu'il y a vraiment du boulot? Et puis surtout, si demain on les forme à une technologie particulière, mais que c'est une autre qui sort du chapeau, en matière énergétique par exemple, ces jeunes vont se retrouver coincés en allant vers des formations courtes, directement appliquées sur le terrain. Mais en n'ayant pas un bagage de culture générale suffisant, ils vont avoir du mal à rebondir en tant qu'adultes. Donc à chaque fois, il faut se poser ces questions. L'adéquation emploi-métier, ça paraît simple. Allez hop, il y a tel boulot, hop, on te forme, hop, tu y vas. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y travailler. Mais il faut aussi toujours systématiquement se poser la question dans le cadre de la formation initiale de qu'est-ce qu'on apporte aux citoyens, à l'individu en termes de culture générale. Et puis, qu'est-ce qu'on lui apporte en termes de technicité, de savoir technique, qui vont lui permettre à la fois de trouver du boulot et de rebondir. Et c'est là-dessus que les enseignants sont souvent mes collègues. Je suis enseignant de formation de génie mécanique, titulaire d'un diplôme de journalisme et puis passionné par l'histoire de la lutte contre la tuberculose, démarrant par un CAP, finissant par un DEA. Et alors, c'est pas ça qui me pose problème. À partir du moment qu'on comprend les mécanismes et les raisons pour lesquelles on les fait. Mais c'est là qu'est la question de l'orientation, à mon avis. C'est la compréhension récursive, c'est la possibilité après coup de comprendre ce qu'on a fait, d'analyser les choix qu'on a fait pour évoluer. Et je travaille maintenant plutôt au niveau européen et plutôt avec le Moyen-Orient sur les questions d'orientation. On a quand même un système qui est extrêmement souple, complexe, mais souple, qui permet des parcours, des retours, des allées, etc., qu'on ne trouve pas dans d'autres pays. Et ça, j'espère que la formation initiale y est un peu pour quelque chose. Voilà, dans un premier temps, ce que je voulais dire sur les questions d'orientation.
Bien, ben je vais prendre la suite. Gérard Roche vient vous parler beaucoup de la question des savoirs et de la formation professionnelle initiale. Essentiellement, je vais prendre la suite en vous parlant plutôt de la relation emploi-formation. On parlait tout à l'heure d'intégration du temps. Hein, on va parler un peu plus de parcours. Donc, tout d'abord, je suis Christophe Girardeau. Je travaille donc au sein de l'Agence régionale de la formation, qui est un groupement d'intérêt public. Financé à la fois sur le contrat de projet État-Région et le FSE. Donc, on intervient quand il y a effectivement un intérêt partagé entre des dispositifs d'origine et d'institutions diverses. Donc, c'est très bien que je sois finalement coincé entre l'ONICEP et Pôle emploi, parce que c'est un peu notre quotidien. Et donc, mon intervention, comme je vous le disais, elle va prendre la suite de ce que vient vous dire Gérard Roche, sans trop aborder la question du marché du travail, parce que je pense que du coup, ça sera logique pour vous de parler et d'expliquer un peu comment on peut répondre à ce besoin. Mon intervention, elle va parler donc de la relation formation-emploi, et j'espère que je vais arriver à casser suffisamment de représentations pour vous expliquer qu'effectivement, dès lors qu'on est en train de parler de cette relation, ça nous amène à changer de paradigme et à regarder un certain nombre d'éléments de façon différente. Hein, et donc, j'ai trois intentions, trois idées clés que je voudrais vous faire passer. C'est d'abord vous dire qu'il y a une impossible adéquation entre l'emploi et la formation. Ça, c'est une première idée. La deuxième, c'est que c'est une relation dynamique. Hein, et je prendrai quelques exemples liés au contexte économique, socio-économique. On en parlait tout à l'heure sur la structure économique de notre territoire. Et que de toute façon, c'est un processus qui est à piloter tout au long de la vie. Ce que l'on dit aujourd'hui sera certainement valable demain matin, Je ne suis pas sûr demain après-midi et après-demain matin, ça sera sûr. On aura changé de contexte, on aura changé. Il y aurait eu suffisamment de changements pour se reposer ces questions-là. Vous êtes nombreux dans la salle, donc on va simplement faire au vote. Hein, mais qui parmi vous pense que, qu'il occupe, pour ceux qui ont un emploi, ou un emploi en relation avec sa formation? Voilà.
Qui?
Voilà, personne. Vous avez bien raison. Avec la formation, oui, avec votre formation de façon générale, formation initiale. Initiale, oui. C'est moins vrai. Alors, je vais illustrer, hein, je vais donner trois arguments pour vous expliquer pourquoi cette relation, elle ne peut pas être adéquate ou uniquement adéquate. Là, je prends un premier moment dans la vie professionnelle, qui est l'insertion professionnelle à 3 ans. Hein, il y a un certain nombre de structures qui font des enquêtes, et on prend donc le CEREC, qui est une des sources que je vous recommanderai de consulter à l'issue de mon intervention. On regarde donc la relation entre les savoirs enseignés et les savoirs occupés. Donc 28%, grosso modo, des jeunes occupant un emploi nécessitant des compétences dans la vente ou le commerce ont une formation dans le tertiaire de bureau, secrétariat, assistana, comptabilité. 28%. Si je prends le pendant, hein, 9,2% des personnes occupant un emploi dit de tertiaire administratif ont une formation dans la vente ou dans le commerce. Donc ça montre bien qu'il y a aujourd'hui, dans ce qu'on appelle la définition des postes de travail, interpénétration d'un certain nombre de compétences. Ici, on sait que derrière la compétence de la vente ou du commerce, on va mettre par exemple la relation client, la relation à l'usager, et c'est une compétence qui peut être acquise dans le cadre d'une formation à la vente. Je change de domaine, je vais dans le champ de l'industrie, un peu plus industriel. On va retrouver des proportions tout aussi importantes, hein, 26% des personnes occupant un emploi dans l'électricité, l'électronique, ont une formation initiale en mécanique. Le pendant, hein, c'est que 9%, et on retrouve à peu près, j'ai pas fait exprès, hein, donc des jeunes occupant 3 ans après leur sortie de formation un métier dans la mécanique ont une formation initiale dans l'électricité, l'électronique. Deuxième idée majeure, c'est qu'effectivement aujourd'hui, les technologies se combinent, hein, et que la mécanique ou l'électricité, ça n'existe plus. On parle beaucoup d'électromécanique. Pour les plus, je crois que pour tout le monde à peu près, on a une image. Vous regardez votre garagiste il y a 10 ans, vous le regardez aujourd'hui, c'est pas le même métier. Un garagiste qui ne sait pas utiliser une valise, qui ne sait pas débrancher une diode, est disqualifié. Troisième exemple, hein, je vais très vite là-dessus, sur cette idée, mais c'est les gens, donc c'est 16% des personnes qui sont formées au métier du gros œuvre, hein, travail du béton, ont une formation dans le, enfin, occupant un emploi, pardon, dans le gros œuvre, ont une formation dans le second œuvre, carrelage, par exemple, et 11% des personnes, des carreleurs, par exemple, ont un emploi 3 ans après leur sortie de formation dans le gros œuvre en tant que maçon. Là, il y a plusieurs mécanismes qui sont en jeu, mais c'est essentiellement la proximité des corps de métier qui font que finalement, un des grands savoirs du BTP, c'est la connaissance du chantier. Et donc, effectivement, quand on a une bonne connaissance du chantier, eh ben, on apprend plus facilement les métiers et donc on est plus facilement mobilisable. Ce qu'on peut vous dire, ce que je vous propose de retenir déjà de cette enquête, c'est qu'il y a 5 grandes sphères de savoir aujourd'hui, dans lesquelles, dans ces sphères, les savoirs vont être plus ou moins mobiles, mais vont rarement être mobiles d'un corps de savoir à un autre. C'est les métiers de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, le monde du vivant. C'est un premier corps de savoir. Le deuxième, c'est le corps du BTP, hein, je viens de vous l'illustrer. Le troisième, c'est le monde de l'industrie. L'électricité, l'électronique, la conduite de process, le travail des métaux forment un corps cohérent dans lequel les individus vont être mobiles et vont pouvoir trouver des emplois. Quatrième, c'est celui des services, alors au sens large, au sens large du terme, hein, puisqu'on va retrouver les services aux entreprises et les services à la personne. Et le cinquième grande sphère des savoirs, c'est celui des arts. Donc il se distingue encore aujourd'hui ces cinq sphères, mais dans chacune de ces sphères, les savoirs se combinent, se malaxent, se rapprochent, voilà. Et puis, des évidences, hein, puisqu'il faut se les rappeler aussi, c'est que l'électronique pénètre l'ensemble des domaines aujourd'hui dans notre société, c'est l'évolution technologique majeure, et que les savoirs de la mécanique sont les savoirs les plus partagés au monde. Hein, il faut savoir qu'en Inde, il y a 10 fois plus de formés dans les métiers de la mécanique, par exemple d'ingénieurs, qu'il n'y en a en France. Le savoir de la mécanique, c'est un savoir aujourd'hui de base. Deuxième argument qui doit vous expliquer effectivement et vous dire pourquoi il n'y a pas d'adéquation ou pourquoi il est difficile de parler d'adéquation emploi-formation, c'est de regarder les mobilités professionnelles. C'est un travail qu'on est en train de faire, qui est en cours aujourd'hui avec l'INSEE, et l'UNICEF participe d'ailleurs à cette réflexion à travers quelques indicateurs, enfin un indicateur que j'ai choisi parmi tant d'autres, c'est celui du taux de stabilité. Donc c'est une photo, enfin ce sont deux photos, une prise fin octobre de 2 années consécutives. On prend une photo et on regarde quel était l'emploi occupé par une personne et un an plus tard, quel était son emploi. Très rapidement, vous dire que dans les mobilités professionnelles, les corps les plus mobiles ou qui ont une moindre stabilité sont les ouvriers non qualifiés, hein, les premiers niveaux de qualification. Le taux moyen de mobilité est de l'ordre de 40%. Ça, c'est un premier enseignement. On va retrouver ensuite, très bizarrement, ce que je vous disais tout à l'heure, on va retrouver les services d'informatique, le commerce, on va retrouver les secrétaires de direction, oui. Donc, effectivement, ces corps tertiaires de bureau, commerce, vous voyez, ce sont des métiers dans lesquels on est très mobile, on était très mobile au moins entre 2007 et 2008. Et puis, à l'inverse, il y a des métiers dans lesquels on est fortement stabilisé. Ce sont des métiers qu'il faut que je vous signale être réglementé, puisqu'on est sur des métiers d'infirmiers, de médecins, dans les professions paramédicales, voilà. Donc dans notre réflexion, et quand on met du temps, et quand on rajoute du temps, on voit bien que cette question de l'adéquation emploi-formation, eh bien on a... emploi tout Charente, hein, et donc entre 2007 et 2008, repéré plus de 70 000 mobilités professionnelles. Donc pour ça, pour vous dire que le marché du travail est très dynamique. Ensuite, un petit exercice auquel je vais vous soumettre, c'est un exercice de réflexion, finalement, qui consiste à vous donner un certain nombre de pourcentages, 4, qui parle des métiers de soudeur, des métiers dans les fonderies, de regarder les métiers de chaudronnier et de vous demander, selon vous, dans quel secteur, par ordre d'apparition, ils travaillent. Donc, si quelqu'un veut se lancer, pour vous, un soudeur, un chaudronnier, il travaille évidemment dans l'industrie, effectivement. C'est l'idée première, et je pense qu'on y va tous, on est tous d'accord. Eh bien non. Aujourd'hui, alors, oui, vous avez raison, dans l'industrie en général, hein, comme je suis à une maille un peu plus fine, l'industrie, je l'ai séparée. Et donc le premier secteur employeur de ces compétences, c'est le secteur du commerce. Parce que le commerce, aujourd'hui, ne se contente plus seulement de la vente, mais il y a des objets additionnels, et notamment il y a de la réparation. Et donc aujourd'hui, le SAV est très souvent assuré par une fonction commerciale. Alors effectivement, dans ce que vous disiez, on va retrouver les industries de biens d'équipement, hein, des soudeurs, on va les retrouver dans la construction ferroviaire. On va les trouver aussi dans les industries de biens intermédiaires, toute l'industrie agroalimentaire, plutôt dans les services de maintenance d'ailleurs. Et le quatrième secteur, si quelqu'un peut avoir une idée. Pardon ? Alors les services, c'est dans le commerce, hein, je pense que c'est le service commercial, le SAV, hein, donc c'était le premier employeur, donc c'est une très bonne idée, peut-être une autre. Et oui, dans le BTP, effectivement, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a de la structure métallique, d'abord, dans la construction, mais il y a aussi beaucoup de renforts métalliques, et donc on a énormément besoin de ces compétences-là. Donc tout ça pour vous dire que dans la relation emploi-formation, eh bien, dans la notion d'emploi, sachez qu'il y a plusieurs endroits où, dans lesquels peut s'exercer des emplois, et c'est ce que j'appelle la concurrence sectorielle. C'est qu'effectivement, dans la relation et dans ce qui va pouvoir justifier le passage de la formation à l'emploi, eh bien, le contexte économique d'un territoire, par exemple, va avoir une grande importance, ces chiffres étant extraits évidemment de la situation de Poitou-Charentes.
Oui. Une incise. Il faut être clair que les élèves sortant des diplômes de ces spécialités-là n'en ont aucune idée. Et donc, qu'il y ait une répartition de ce type. Et donc, ils candidatent massivement, toujours auprès des mêmes entreprises qui sont dans les secteurs où ils ont effectué leur stage ou leur apprentissage, puisque pour pouvoir effectuer et valider leur diplôme, il fallait qu'ils exercent essentiellement dans le secteur principal qu'ils ont imaginé être celui qui recrute. Et en fait, ensuite, ils se massent dans des files d'attente de CV et de lettres et de candidatures dans les mêmes entreprises. On a fait des études sur une filière, je vais reprendre la filière mécanique, sur 30 élèves diplômés au niveau d'un BTS, 26 avaient candidaté sur les quatre mêmes entreprises. Charente, par exemple. Et donc, on a ces effets-là de caricature. Ils n'ont aucune, ils n'ont pas du tout ça en tête. Et donc, à partir de là, ils candidatent toujours sur les mêmes boîtes. Et donc, ils se mettent toujours dans les mêmes files d'attente. Et ils n'ont pas l'idée, s'il s'est formé à la soudure, il ne va jamais candidater dans une entreprise agroalimentaire parce que pour eux, le métier égale le produit égale le métier. Si on fabrique des pizzas, on n'a pas besoin de soudeurs. Mais si chez Marie-sur-Jolet France, dans les équipes de maintenance, il faut réparer des machines et il faut à un moment donné souder des pièces sur ces machines, il faut des soudeurs. Et jamais ils ne candidatent là, ce qui fait qu'un grand nombre d'entreprises déclarent ne pas trouver les compétences correspondantes et ce qui fait qu'un certain nombre de jeunes ne considèrent que malgré un diplôme qui a priori est à fort taux d'insertion, eh bien, ils ont du mal à trouver. Et c'est seulement au bout d'un certain temps, quand ils ont compris ce genre de notion, qu'ils finissent par candidater auprès des entreprises qui les recrutent. Donc il y a la déconnexion et à faire. Et dans leur tête, ils font une connexion produit-métier. Et ça, c'est un des principaux problèmes. D'ailleurs, qui pensent que c'est des entreprises de pizza qu'on fait pousser les tomates, pour caricaturer un peu. Mais ce n'est pas là qu'on fait de la soudure. Et on a régulièrement ce genre de discussion avec des élèves, mais qui sont des élèves de niveau BTS, à Bac plus 2. Hein.
Donc la communication est essentielle, hein, je reviendrai, c'est une des conclusions de nos travaux. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'effectivement, quand on parlait tout à l'heure de la carte ou du schéma des formations, hein, l'adéquationnisme serait de dire l'industrie va mal en Poitou-Charentes, on ferme tout, tous les métiers de mécanicien, on ferme les métiers de soudeur. Alors qu'au contraire, la construction va très bien, va de plus en plus vers du préfabriqué, donc on aura de plus en plus besoin de soudeurs. Et des soudures qui sont de plus en plus techniques, donc en plus avec des niveaux de qualification qui s'élèvent. Et que fait Pôle emploi pendant ce temps? Donc j'espère qu'avec ces exemples-là, vous aurez compris que la relation, une formation conduit à un emploi et un emploi suppose une formation, est mise à mal dans notre société. Alors, je vais vous amener dans un changement de paradigme pour vous expliquer, effectivement, quand on travaille sur la relation emploi-formation, quelle réflexion faut-il avoir et par quelle entrée. Donc, je vais prendre une situation tout à fait classique. Là, je reviens à ce qu'on se disait. Hein, je prends la situation d'une personne qui occupe un emploi, qui a une profession dans un secteur. Je suis, par exemple, cuisinier dans un hôtel. Il a une opportunité, on lui propose d'occuper son poste de cuisinier dans un autre secteur d'activité, on va prendre dans un hôpital. Hein, donc il a le même métier, etc. Donc première mobilité. Par chance, il suit de la formation, il connaît bien les produits, il a une bonne culture générale. On lui dit, ben, en termes de progression de carrière, ce qu'on te propose, c'est d'être responsable des achats. Et donc il va avoir une progression. Et puis... chemin faisant, il a envie de faire autre chose et il va changer et de métier et de secteur. Donc, va être plutôt dans un processus de reconversion. Ça, c'est le schéma classique que vous avez. hein, sachant que ce schéma, il va effectivement s'appuyer sur des temps de passage dans la formation professionnelle, qu'elle soit continue sous forme de stagiaire ou au sein d'une entreprise, que ce soit des apprentissages formels ou informels, voire même passer par le marché du travail. Hein, dans le circuit, il n'est pas si linéaire, vous savez, dans notre société actuelle. Alors, le changement de paradigme, il repose aussi sur ce que j'appelle les descripteurs. Hein, aujourd'hui, on a l'habitude de décrire les formations, les métiers, je reviens sur le CODROM, etc., à travers les savoirs, savoir-faire, savoir-être. Hein, le triptyque classique. Je vous avoue que quand on commence à regarder des métiers un peu complexes, on ne sait plus trop comment les décrire. Hein. Savoir négocier, savoir décider, savoir manager, animer. Est-ce que c'est du savoir-être, du savoir-faire? C'est un mix des deux. Donc ça, ce sont des savoirs peu présents encore dans un certain nombre de réflexions. Dans le champ dans lequel on parle des savoirs de base, lire, écrire, compter. Moi, je dis que le savoir utiliser la technologie, un GPS, un ordinateur, fait partie aujourd'hui d'un savoir de base. Je connais très peu de métiers dans lesquels on ne les utilise pas. Donc il y a des savoirs de base. Et puis on va parler aussi, on en parlait encore ce tout à l'heure, avant notre rencontre, de savoirs transversaux, transférables, et savoirs spécifiques. Ça, c'est les savoirs classiques. Et quand on va travailler dans la relation formation-emploi, on va plutôt utiliser deux descripteurs qui sont les savoirs cœur de métier et les savoirs périphériques. Sachant que pour se décrire, ils vont pouvoir se décrire en termes de savoir, etc. Mais c'est un langage nouveau qu'il faut avoir. Alors, c'est celui au moins que nous utilisons dans nos travaux. Alors, il y aura certainement d'autres concepts et d'autres idées. Moi, ce que je vous propose encore, c'est un petit exercice. Hein, je vous dis, voilà, une personne, je lis un référentiel et je constate qu'on lui demande, au moyen d'un moule et d'armature métallique, de respecter les impératifs de mise en œuvre et les règles de sécurité, de savoir ce qu'est un coffrage, voire peut-être de l'utiliser, d'assembler des éléments préfabriqués dans un contexte avec un matériel qui s'appelle béton, béton armé ou béton précontraint. De quel métier suis-je en train de parler ?
Vous pensez que vous veniez sur une conférence pour vous poser,
hein ? Ah oui, 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 ça... Moi, je pose plus de questions en général que de réponses, donc... Exactement. On est sur un corps, effectivement, d'ouvrier du béton. Voilà. Maintenant, je vous donne un deuxième métier où on vous dit ce métier, il faut savoir encadrer et on vous parle d'approvisionnement. Oui. C'est possible. Oui. Ouais.
Ouais.
Tout à fait. Eh bien, vous voyez, la première, on n'a quasiment pas de doute, hein, avec un peu d'expérience, on voit bien que c'est effectivement un maçon, un ouvrier du BTP, hein, c'est le code ROM, hein, j'ai pris sur la description du ROM, et c'est ce que j'appelle les savoirs cœur de métier. Et puis le deuxième savoir, hein, c'était le savoir périphérique, c'est-à-dire qu'on demande absolument la maîtrise du cœur de métier, et puis pourquoi pas, hein, sur un chantier, il y a souvent des équipes, donc c'est un plus. Mais ce n'est qu'un plus si je peux encadrer une petite équipe et prendre en charge l'approvisionnement du... Donc vous voyez, ce qu'on appelle le cœur de métier, c'est l'indispensable, et le périphérique, c'est le plus, hein, c'est ce qui peut faire la mobilité professionnelle ou une certaine évolution. Et bien maintenant, je vais reprendre le cas explicité précédemment, mais en entrant dans des problématiques emploi-formation. Donc je prends toujours notre cuisinier, qui a un certain nombre de savoirs. Il acquiert une qualification qui lui permet d'utiliser la règle de 3. Donc quand il sait faire un plat, enfin un plat pour une personne, bah maintenant il a les quantités pour faire pour un repas pour 15, 20, 30. Donc au lieu d'être à l'assiette dans un restaurant classique, il va pouvoir effectivement être cuisinier dans une restauration collective. Je parlais de l'hôpital tout à l'heure. Bah ça, quand on a une élévation du seuil technique, on parle d'une élévation de la qualification et donc une première problématique et une première champ de recherche de la relation emploi-formation, c'est de regarder tous les dispositifs et tous les mouvements qui sont en processus de qualification. Ce qu'ils savaient faire, les savoirs périphériques, hein, ils savaient prendre contact, appeler, gérer son stock. Il savait quand il y avait des manques, il anticipait, il prenait au téléphone, il faisait. Eh bien, ce qui était périphérique, on le fait rentrer dans son corps de métier. On lui dit, maintenant, tu vas être responsable de l'approvisionnement. Ben ça, c'est un dispositif et c'est un processus de professionnalisation. C'est lorsque les savoirs périphériques entrent dans le cœur de métier. Donc, problématique qualification, problématique de professionnalisation, et puis la problématique de reconversion. J'ai pris un exemple. Hein, on pourrait avoir, il n'y a aucune relation entre les deux situations A et B. Moi, j'aime bien la reconversion quand souvent les savoirs périphériques deviennent le cœur de métier. C'est-à-dire ce qui était l'annexe de mon métier, je le fais devenir le cœur de mon métier. J'étais assistante et j'avais régulièrement au téléphone des clients mécontents. J'ai appris à réguler, à négocier, etc. Je suis devenu commercial. Donc ce qui faisait un petit peu le complément de mon métier est devenu mon cœur de métier. Et ça, c'est une situation de reconversion. Et puis je n'oublie pas celle qui est finalement centrale, qui est la problématique de l'orientation. Parce que la question de l'orientation tout au long de la vie, c'est de savoir aujourd'hui si effectivement est un métier et où une personne doit savoir se qualifier, si c'est une personne qui doit se professionnaliser ou si c'est une personne qui doit être dans un processus de reconversion. Donc là, vous avez les quatre grandes sphères d'études de ce qu'est la relation formation-emploi. Je passe cette diapo. Donc maintenant, il y a les cœurs de savoir, il y a les savoirs périphériques. Qu'est-ce, dans le contexte économique, hein, et tel qu'il est aujourd'hui, qu'est-ce qui est générateur de mouvement et de dynamique des savoirs? Il y a trois sensibilités et quatre évolutions. La première sensibilité qui est vraiment très prégnante dans notre société et dans l'évolution à la fois de la quantité des emplois et des contenus des emplois, c'est la mondialisation. J'ai pris un exemple très simple, c'est qu'il y a encore 10 ans en Poitou-Charentes, on était dans une industrie de la production, il y a encore des belles entreprises de la production. Et ce sont les accords de Lisbonne, hein, c'est une volonté européenne, aujourd'hui dans une société du savoir, et donc plutôt dans une industrie de la conception. Donc la mondialisation, vous voyez comment elle change complètement la représentation et l'idée que l'on peut avoir du secteur industriel. Questions très prégnantes aujourd'hui sont les questions environnementales. Pour illustrer très rapidement, le BTP va être, on parle beaucoup de bâtiments basse consommation, etc. Vous voyez comment le secteur BTP, du BTP de la construction, donc, s'interroge sur les économies énergétiques. L'industrie, qui a longtemps été pointée du doigt comme pollueur, hein, les fumées de sortie de nos cheminées, La pêche aussi, hein, qui est complètement aujourd'hui questionnée sur la préservation de la ressource halieutique, hein, qui fait qu'aujourd'hui, on voit bien que l'activité de la pêche, elle est plutôt dans l'aquaculture. L'avenir de la pêche, il est plutôt dans l'aquaculture, très honnêtement. La sensibilité de tous nos savoirs sont liées aussi aux questions énergétiques. Je reviens sur l'industrie fortement consommatrice d'énergie, hein, notamment d'énergie électrique aujourd'hui. On s'interroge sur de nouveaux process et donc de nouveaux savoirs qui permettraient effectivement de produire d'avoir les mêmes productions mais en consommant moins d'énergie. Le transport, hein, évidemment, avec la pollution. Donc ça, ce sont les trois principaux facteurs de changement. Les évolutions, il y a des évolutions technologiques. Premier facteur, quand on travaille, c'est une question systématique. L'intégration de l'informatique aujourd'hui, on nous promet la domotique. Je pense qu'un jour, on va y arriver. Hein, c'est très, très lent. Il y a des freins culturels encore, mais on va y arriver. J'en veux pour preuve aujourd'hui le développement des drives dans les supermarchés, quoi. Il y a des évolutions réglementaires. Alors là, en France, nous sommes champions. Je pourrais vous donner une liste infinie de réglementations. Notamment, on vient de sortir une étude sur le transport. Dans les 3 années qui viennent, à tous les 1er janvier d'une année, il y a une nouvelle réglementation transport qui se met en place. Voilà. À chaque fois, ça a des conséquences sur l'organisation du travail, sur le contenu du travail. Il y a des évolutions sociétales. Ça, c'est aussi un facteur important de changement. J'ai parlé du client et de l'usager. Il y a un exemple que j'aime bien prendre, c'est celui du comportement face à l'alimentation. En 30 ans, le temps de repas moyen en France est passé d'1h30 à 20 minutes. Donc l'alimentation n'est plus la même, hein, donc le métier de cuisinier dont je parlais tout à l'heure. Et j'aime bien cet exemple-là parce que 90% des Français prennent leur déjeuner entre midi et demi entre 12h30 et 13h30. C'est 15% de cette population en Allemagne. Donc vous voyez que l'organisation du travail, quand on est cuisinier en Allemagne, c'est on a du travail toute la journée, mais on n'a pas de coup de feu. Quand on est cuisinier en France, non seulement il faut c'est midi et demi, 1h30, on se tape 90% de travail, et après toute l'après-midi, on n'a plus rien à faire. Et ça recommence vers 17h, 18h, 19h. Donc ça, quand on est sur la relation emploi-formation et sur le comportement et l'image qu'on a des métiers, vous comprenez que ce sont des facteurs importants. Bien que ce que je vous signalais, c'est que le comportement français évolue. Et puis, un dada personnel, moi j'y crois dur comme fer, c'est les évolutions organisationnelles. On accompagne beaucoup de territoires qui parlent d'attractivité du territoire, qui veulent faire venir les plus grandes entreprises, etc., etc., etc. Ils ont du mal à voir et à comprendre qu'ils sont en concurrence les uns avec les autres. Ils ont même du mal à voir leurs compétences. Moi, je dis, je pense aujourd'hui qu'on a des marges vraiment de progrès dans le travail en réseau, dans le développement endogène des territoires. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des corps de métier, des secteurs qui travaillent plutôt en tuyau d'orgue et qu'on gagnerait à développer des modalités de collaboration plus fortes. J'en veux pour exemple que nous avons accompagné il y a 3 ans deux territoires pourtant proches, hein, Angoulême et Cognac. Dans le Cognac, pour faire la promotion du Cognac, il y a besoin tous les ans de faire une promotion, campagne, et donc d'avoir du marketing. Et à Angoulême, on a toute la vallée de l'image. Et donc, ce sont des créateurs, des créatifs, et qui sont capables de faire des campagnes de publicité. Sauf que jamais Angoulême ne travaillait pour le Cognac. Donc, on les a fait se rencontrer, et je crois que c'est cette année, il y a eu mise en place d'un BTS qui permet effectivement de faire du marketing pour le Cognac à partir des savoirs enseignés dans le lycée de l'image, par exemple, sur Angoulême. Donc, et là, il y a vraiment des forces, il y a vraiment des forces à mettre en mouvement et à rapprocher. Je vous avais promis, un autre de mes dadas, c'est souvent le temps et la temporalité. Donc je vais faire attention au temps pour ne pas trop tarder. Vous dire aujourd'hui que, l'adéquation emploi-formation, j'espère que vous n'y croyez plus et que vous êtes bien dans l'interrogation, c'est une relation, donc il y a plein de types de relations. J'espère vous avoir montré, ou au moins touché du doigt, ou pointé quelques facteurs qui montrent que c'est une relation qui est très dynamique. Et puis maintenant, il faut se dire que c'est aussi une dynamique qui se gère dans le temps et qui m'amène à dire que c'est cette relation emploi-formation, on doit de plus en plus, alors à la fois les pouvoirs publics, mais je crois que chacun d'entre nous, être dans une posture d'ajustement et de pilotage de notre savoir, de notre carrière professionnelle. Parce que, évidemment, il y a des conjonctures, il y a des événements peu prévisibles qui s'imposent à nous. Ça, c'est la position réactive. Hein, on est réactif, d'accord. Il y a, je vous en parlais, un certain nombre d'événements qui sont datés, hein, des réglementations qui arrivent. Donc, on a des perspectives avec des dates connues. Mais il faut reconnaître que dans notre société, on les évoque rarement. On anticipe peu. On est plutôt en train de se dire, on verra bien, la loi peut changer. Puis on ne sait pas les conséquences que ça va avoir sur les savoirs. Donc on monte, on remonte et on redevient réactif. Et le pire, c'est que tous nos travaux, et on se le dit régulièrement, il y a des tendances très lourdes qui viennent. Il y a des murs qu'on voit devenir qui mettent 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et cela, c'est toujours le même comportement, c'est on verra bien, quoi. On voit bien. Et tout le travail qu'on a, nous, sur la communication, et c'est presque là-dessus, et me semble-t-il là-dessus que je vais arrêter, c'est dans ce dispositif, dans cette relation pas formation, c'est effectivement comment on rend, on envoie à travers l'orientation et l'information tout au long de la vie les bons signaux à chacun d'entre nous pour qu'au bon moment, puisqu'il faut avoir l'information au bon moment, et que ça se construise dans un équilibre, alors qui ne va pas être simple, entre des savoirs un peu globaux, que je peux mettre un peu partout, et des savoirs spécifiques, parce que je vais me contredire. Oui, il n'y a pas d'adéquation emploi-formation, mais à un moment, il y a une adéquation entre les compétences que j'ai et les compétences que mon employeur me demande sur son poste de travail. Et donc, c'est ma conclusion, pour ne pas être trop long quand même, de vous dire qu'aujourd'hui, dans cette relation emploi-formation, il y a un équilibre à jouer entre des savoirs un peu globaux, un peu généraux, transférables, et des savoirs très spécifiques qui vous permettent effectivement d'être employable à tout moment. Voilà.
Je vous donner un exemple sur la formation initiale par rapport à ces trois entrées-là. Des conjonctures, événements peu prévisibles, mais qui s'imposent à nous. La grande tempête de 99... Oui. A été une formidable opportunité pour relancer la question des emplois dans le domaine du bâtiment. La fédération professionnelle, les fédérations ont su gérer ce problème majeur, hein, parce que le pays a été quand même méchamment abîmé, et communiquer auprès des jeunes qui ont pris conscience de l'enjeu que le bâtiment, c'était pas que des métiers sales, c'était aussi à un moment donné reconstruire les choses. Et c'est assez formidable de voir comme les gamins, à partir de 99, 2000, 2001, 2002, sont rentrés beaucoup plus massivement sur les filières du bâtiment, et que c'est une tendance lourde, et cette augmentation, elle ne s'est pas défaite. C'était un événement imprévisible, parce que c'était vraiment d'une taille incroyable, mais ça a su rebondir positivement. En revanche, il y a des phénomènes très lourds et très connus qu'on évoquait, par exemple, il y a déjà 15 ans. On vieillit tous à peu près à la même vitesse. À la question de l'arrivée à l'âge de la retraite des chefs d'entreprise, des toutes petites entreprises. Ça fait 15 ans qu'on parle de cette question-là. Que le fait que les chefs d'entreprise, notamment dans l'agriculture, mais pas seulement, dans le BTP, etc., arrivaient vieillissants, qu'ils allaient devoir céder leur entreprise et qu'il n'y avait pas de repreneurs et du mal à trouver des repreneurs. Bien, je peux vous assurer que quand on a voulu monter des modules de gestion dans des filières du bâtiment, dans des filières de l'industrie, etc., pour des gamins qui étaient formés initialement sur les formations techniques. Et on s'est dit, pour les aider à reprendre les entreprises, il faut intégrer des modules de gestion, y compris en formation initiale. Ça s'est avéré peine perdue. On n'a jamais réussi à convaincre autour de ces sujets-là. Et c'est l'apprentissage, qui est une modalité de formation excellente, par ailleurs, pour beaucoup de choses, qui a pris le relais sur la création d'entreprises, mais qui n'a jamais intégré les questions de gestion dans ces référentiels de formation, ce qui fait aujourd'hui que sur certains secteurs, je parlerai par exemple des garages automobiles avec le bac pro automobile, je parlerai du bâtiment, ces jeunes sont diplômés, ils ont été diplômés il y a 2-3 ans, mais ils n'ont pas fait de gestion, ils ne sont pas en capacité de reprendre l'entreprise, en tout cas ils le feront mal, et ils sont obligés maintenant de courir après le train et de demander, et on monte des modules de formation de gestion en formation continue essentiellement, et des modules courts, etc., pour essayer de trouver des solutions au moment de la reprise d'entreprise. C'est pas normal parce qu'on le savait, et parce que le vieillissement de la population, c'est quelque chose qu'on sait. Le vieillissement de la population, les besoins des emplois dans les services, c'est quelque chose qu'on sait. Donc on a multiplié par 4 le nombre de formations et de places offertes dans le secteur sanitaire et social. Donc ça veut dire qu'à certains moments, quand on prend les bonnes décisions, on peut anticiper des choses. Et le plus blessant, effectivement, le plus problématique, c'est ce que pointe Christophe, c'est qu'il y a des problématiques des 15 prochaines années qu'on connaît et sur lesquelles, à 15 ans, on peut agir fortement. Mais il faut convaincre. Il faut convaincre autour du problème de la montée des eaux en Charente-Maritime, par exemple, et de l'ineptie qu'il y a à développer certaines filières de formation et certains projets d'orientation en proximité de la côte, Et Xintia, j'en ai bien le souvenir, puisque 6 mois avant, on faisait un travail sur une exposition sur les métiers liés à la mer, ici même. Et des collègues, il y en a un qui se cache là-bas, ils avaient fait une maquette où ils montraient la montée des eaux tous les 25 ans, dans les 150 prochaines années en Poitou-Charentes. Et on ne voulait pas y croire. On n'osait pas y croire. Et 6 mois après, la tempête Xintia, événement imprévisible, mais qui avait été quand même écrit par un groupe de scientifiques 6 mois avant, eh bien, tombait. Et aujourd'hui, on n'a pas le nombre de jeunes formés en assez grand nombre dans le bâtiment pour reconstruire les maisons. Mais on n'a pas non plus les compétences pour les détruire comme il convient. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis des normes qui ne sont pas les bonnes sur la Charente-Maritime, et aujourd'hui, on ne s'est pas formé en formation initiale sur ces métiers. Donc, c'est la formation qui prendra le relais. Donc, mais la formation continue, elle ne doit pas être considérée comme palliative. C'est quelque chose, il y a des éléments qu'on doit pouvoir intégrer en formation initiale, surtout quand on sait que ça va arriver dans les 15 ans qui viennent.
Bon, eh bien, pour finir, nous allons présenter quelques éléments, quelques axes de réflexion sur la question de la formation, telle qu'on peut les envisager à Pôle emploi. Je vous donne le plan. On a un double projet. D'une part, camper un peu une réflexion sur la notion de formation en se mettant plutôt du côté du demandeur d'emploi. Non pas qu'on va parler là des trajectoires individuelles et d'envisager ces trajectoires sur le plan, par exemple, social ou psychologique, mais on va envisager la question de la formation, pas simplement, et je vais y venir très vite, dans la formation, dans son contexte socio-économique, on va le voir également par rapport aux personnes. Le deuxième projet, c'est de parler un peu de Pôle emploi, c'est-à-dire, bon, finalement, Pôle emploi, on en parle beaucoup, avec une connaissance plus ou moins approfondie, plus ou moins erronée, donc sur ce thème-là de la formation, mais c'est de donner quelques éléments de comment fonctionne Pôle emploi et comment Pôle emploi s'organise, en tout cas sur cette question de la formation. Donc, successivement, une première petite partie de problématiques, disons, sur la question de la formation, en lien avec l'orientation. Deux parties sur le positionnement de Pôle emploi et l'action de Pôle emploi dans ce domaine-là. Et pour finir très rapidement, quelques axes de réflexion, y compris sur ce qu'on aura présenté. C'est un peu une analyse, disons, critique. Alors, la première partie, la formation professionnelle à la charnière de problématiques d'orientation et de recrutement. Alors d'abord, je précise que nous, on se situe, pour le coup, résolument dans le champ de la formation professionnelle des adultes, et il faudrait rajouter, qui plus est, des demandeurs d'emploi. Classiquement, la formation, dans ce cadre-là, elle est envisagée par rapport aux évolutions du marché du travail. Et en effet, on va parler d'importance ou de besoin de la formation. Ça a été évoqué là, par exemple, juste avant nous, par rapport aux évolutions techniques et sociales, culturelles des métiers et des emplois. La formation vient également en réponse aux pénuries de main-d'œuvre, comment on peut faire pour former telle ou telle personne, enfin des gens dans un domaine qui est en pénurie de main-d'œuvre. On a des exemples, on n'arrive pas à trouver de personnes intéressées pour être bouchées, on manque de bouchers, on manque de soudeurs, par exemple. La formation vient également, et ça on l'entend beaucoup dans les médias, répondre à une évolution qui est la montée en qualification des emplois et donc la disparition progressive des emplois non qualifiés. Alors, quand on envisage la formation de cette manière-là, comme je viens de le faire, on se situe justement sur ce contexte socio-économique et sur les besoins qu'il y a en formation dans le fonctionnement d'une société, et on voit la formation à ce moment-là comme un outil. C'est l'outil d'adaptation qui vient répondre à des besoins, et du coup on parlera à la fois des besoins du marché et des besoins des personnes.
Ça fait référence à tout à l'heure, Christophe, tu parlais d'ajustement. Voilà, la notion d'ajustement, on la trouve bien là.
Alors, le problème que l'on a par rapport à ça, c'est qu'il ne suffit pas de dire à une personne qu'il y a un marché qui a besoin d'elle, ou qu'elle-même a besoin, en l'occurrence, de se former là-dedans, dans tel ou tel domaine, pour que la personne aille se former. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fonctionne pas qu'avec des besoins. Et en effet, d'abord, ces besoins sont très variés, donc difficiles à partir de ce cadre, on va dire, strictement économique, d'avoir une véritable politique de formation. C'est quand même des personnes qui vont aller se former. Donc les besoins sont variés. Ça peut être dans certains cas, je pense aux demandeurs d'emploi. il va y avoir une problématique d'adaptation à un emploi très spécifique, c'est-à-dire qu'il est identifié, il est connu, la personne est quasiment recrutée dans une entreprise donnée, où la formation va venir pour répondre à un problème d'adaptation à un métier ou disons un emploi type. Donc là, le métier, je ne l'ai pas sous la main, mais compte tenu de l'évolution des métiers. Alors on parlait par exemple cuisinier, c'est vrai que le métier de cuisinier, tout en gardant ses aspects traditionnels dans certains secteurs, peut évoluer notamment par rapport à la restauration collective. Donc on peut avoir des personnes qui, étant cuisinier, se disent « bon, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir m'adapter à ce nouvel emploi, disons ?» Mais là, elle ne pense pas nécessairement à tel emploi, à tel endroit. Et puis, la formation peut répondre beaucoup plus globalement aux besoins du marché du travail de l'emploi. C'est les demandeurs d'emploi qui viendront nous demander dans quoi je pourrais me former, en gros, où est-ce qu'il y a du boulot. Bon. Donc, déjà, quand on commence à gratter un peu au niveau des personnes, on s'aperçoit que l'idée assez rationnelle, elle est rationnelle, elle le reste d'ailleurs, mais est insuffisante pour répondre aux démarches des personnes. D'autant plus que les besoins sont variés, mais les situations de transition, celles des demandeurs d'emploi, le sont elles-mêmes aussi. On a des personnes qui vont être dans des reconversions, celles-ci peuvent être choisies ou subies. Des personnes sont dans des mobilités géographiques plus ou moins variables, certaines même ne sont pas du tout mobiles, ou en tout cas telles qu'elles se perçoivent elles-mêmes dans leur environnement professionnel et personnel ne sont pas mobiles. La représentation de la formation elle-même peut varier beaucoup en fonction de différents paramètres. J'en donne là j'en donne deux, mais il y en a bien d'autres. Les niveaux professionnels, on voit que la représentation de la formation n'est pas la même, y compris parce que l'expérience de la formation continue n'est pas la même selon les niveaux professionnels. Les générations n'envisagent pas la formation de la même manière. Pour certaines générations, la formation des adultes, c'est encore l'école. Bon, bref, il y a tout un tas d'éléments. J'en donne ici simplement quelques exemples qui montrent que on ne peut pas, quand on veut bâtir une politique de formation, bien sûr en réponse aux besoins, entre guillemets, de l'environnement, on ne peut pas se suffire de cette question-là quand il s'agit d'amener, d'intéresser des personnes à la formation. Donc, en fait, c'est comme ça que, de proche en proche, de la notion de l'identification des besoins, où est-ce qu'il faudrait de la formation, on en arrive à la question de l'orientation professionnelle, qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus complexe aussi. Parce qu'en fait, la formation, se former pour une personne, ça viendra comme une résultante à la fois des besoins qui ont pu être identifiés dans un monde économique, qu'on peut traduire après en termes de besoins de la personne, mais ça vient également se relier aux aspirations de la personne. Et les aspirations de la personne, je mets derrière aspiration ses souhaits, ses envies, ses intérêts, la perception que la personne a d'elle-même, de son environnement, de sa trajectoire, etc. Cela ne se traduit pas uniquement en termes de besoins. Les personnes, et c'est celles avec qui nos conseillers travaillent, ont des choix à opérer, évidemment dans un système de contraintes qui peuvent être très fortes, mais il reste la question du choix des personnes. Ce qui fait que se former pour les personnes s'inscrit dans un projet, doit s'inscrire dans la construction d'un projet et pas simplement dans une lecture rationnelle, rationalisante des besoins qui existeraient, même si c'est des éléments qui rentrent en ligne de compte dans les démarches des personnes. Il y aura un projet de formation à construire dans le cadre d'un projet professionnel. La formation n'est finalement pas qu'un outil au service d'un projet professionnel. Décider de se former, c'est en soi un projet. Voilà comment on peut très rapidement comprendre comment de la notion de formation tout au long de la vie qui demeure comme concept, comme notion, la société globalement est progressivement passée, a étendu cette notion sans la faire disparaître de formation tout au long de la vie à celle d'orientation tout au long de la vie dont il a été déjà un peu question précédemment. Sur cette notion d'orientation tout au long de la vie, un rapide passage sur l'évolution de cette notion, sa genèse un peu dans le champ politique ou sociopolitique. C'est une date, même si elle existait avant, mais il y a le sommet de Lisbonne en 2000 qui a consacré, en tout cas sur le champ politique, cette notion d'orientation tout au long de la vie. Elle était là à la fois pour prendre en compte les trajectoires des personnes, mais aussi et surtout pour prendre en compte des préoccupations d'ordre économique. Et du coup, l'individu prend tout d'un coup une place dans les réflexions politiques, mais parce qu'on considère qu'il y a un enjeu économique à ce que les personnes, finalement, rentrent dans des démarches d'orientation. Un rapport du CDFOP en 2008, c'est assez récent, dit même que c'est un devoir des États de pouvoir apporter un soutien aux citoyens dans leurs négociations des écueils sociaux et économiques. Et on voit, dans ce contexte-là, où les préoccupations économiques amènent à se préoccuper de la question des personnes, certes par rapport à un enjeu économique, apparaître la notion de capacité à s'orienter, est-ce que c'est une compétence, qui devient elle-même un enjeu social et économique, les gens doivent apprendre à s'orienter. Alors, c'est quoi finalement derrière ça, s'orienter ? C'est pas simplement comme on le pensait à une époque, notamment dans une tradition, mais qui a évolué elle-même, de l'orientation scolaire. S'orienter, c'était choisir un métier. S'orienter, c'est beaucoup plus que ça. L'orientation professionnelle, c'est prendre des repères pour pouvoir se guider dans un environnement. Donc, ce n'est pas simplement faire des choix d'activité ou de métier, mais c'est également bien se connaître, mieux se connaître, connaître un environnement pour, à partir de là, faire des choix. Je le disais tout à l'heure, dans un système de contraintes, évidemment. Et au-delà de ces choix d'orientation, au sens restreint, donc de métier, d'activité, de pouvoir conduire son parcours professionnel, d'aucuns diront gérer une carrière, pas au sens ambitieux du terme, mais au sens du parcours professionnel, et s'adapter finalement aux circonstances qui peuvent arriver dans ce parcours professionnel. Et l'orientation, c'est tout ça à la fois, qui fait que l'orientation tout au long de la vie, c'est pas simplement une étape dans une démarche d'insertion, l'étape où il faudrait que je choisisse le métier vers lequel je vais, mais c'est le processus intégrateur des aspects d'insertion, de formation, d'adaptation au travail, etc. Alors, je vais passer ça pour aller un peu plus vite. Qu'en est-il de Pôle emploi dans une fois ces réflexions un peu générales données, qui vont de la formation à l'orientation? D'abord, je ne vais pas trop la commenter, mais je trouvais intéressant qu'on puisse vous donner ce que le Code du travail donne comme mission à Pôle emploi, où on voit là-dedans que Pôle emploi n'a pas simplement vocation ou mission à trouver de l'emploi et à y mettre les personnes dedans, mais justement, comme les choses ne vont pas de soi comme ça, à faire un travail avec ces personnes. Et donc les missions de Pôle emploi inscrites dans le Code du travail sont d'accueillir, d'informer, si on le savait, mais d'orienter, d'accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi. Pôle emploi peut recevoir des salariés sur un accueil minimal. Donc d'accompagner, d'orienter les personnes, de les accompagner, soit parce qu'elles sont à la recherche d'un emploi, soit parce qu'elles sont à la recherche d'une formation, ou tout simplement un peu en amont d'un conseil professionnel. À partir de là, Pôle emploi a pour mission de prescrire des actions, des prestations, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation, qui permettent aux personnes, on retrouve la formation, de développer leurs compétences professionnelles, d'améliorer leur employabilité et sur ces aspects plus d'orientation au sens large, de faciliter leur mobilité géographique et professionnelle, d'entrer dans des parcours d'insertion sociale et professionnelle. Dans ce cadre-là, et je passerai la parole à ma collègue Isabelle, et néanmoins ma directrice, le Pôle emploi, c'est donner une définition de l'orientation. Alors, un peu d'histoire très récente. La loi du 24 novembre 2009 transfère l'activité du corps des psychologues du travail de l'AFPA, 800 psychologues, transfère cette activité qui était une activité d'orientation, orientation vers les formations. La loi transfère cette activité de l'AFPA vers Pôle emploi. Dans le même temps, et ça a été préparé un an avant par la loi elle-même, Pôle emploi se voit affecter officiellement par la loi une mission d'orientation. Et on voit dans les rapports de préparation de ce transfert de l'activité d'orientation qui va de l'AFPA, Association nationale de la formation professionnelle des adultes, vers Pôle emploi, cette définition donnée par les deux directeurs généraux de l'époque de l'AFPA et de Pôle emploi, l'orientation vise à aider les personnes à partir de leurs capacités, compétences et aspirations, en lien avec la situation du marché du travail, les opportunités d'emploi et les contraintes de mobilité géographique, à prendre des décisions Je reviendrai sur la suite après. Mais on voit là cette triade où il y a, je devrais dire plutôt, il y a la personne et l'environnement. Et s'agissant de la personne, il n'y a pas que ses capacités et compétences, bien sûr qu'elles y sont, mais il y a également les aspirations des personnes. Donc on a cette triade, les capacités, les savoir-faire, les compétences des personnes, leurs intérêts, leurs souhaits, leurs aspirations, d'une part, et ça va interagir avec les données d'environnement. Il n'y a pas une donnée qui prévaut sur l'autre, et le rôle de l'accompagnement consiste à faire travailler tout ça en même temps, pour pouvoir aider les personnes à prendre des décisions quant à des choix de carrière, des choix de mobilité professionnelle, des choix de formation, et on retrouve l'acquisition et le développement des compétences, c'est-à-dire qu'on revoit la formation considérée comme un moyen à privilégier dans l'aide au retour à l'emploi, mais cette aide au retour à l'emploi bien inscrite dans une dynamique d'aide à l'orientation professionnelle. Alors, deuxième partie.
Ouais. Alors, tout à l'heure, on parlait du cœur de métier. Ben, justement, nous, on a l'habitude de dire que le cœur de notre métier à Pôle emploi, et je ne sais pas si c'est tout à fait partagé dans la représentation collective et commune, c'est précisément l'accompagnement. On a donc une palette d'une dizaine de prestations, alors à la fois dites de placement et d'orientation, mais finalement, si on reprend les éléments qui ont été énoncés tout à l'heure, la frontière est un petit peu floue, parce que sur des prestations dites de placement, on va plutôt aider le demandeur d'emploi à élargir sa cible, c'est-à-dire à garder son cœur de métier, mais peut-être à s'interroger à d'autres lieux d'exercice que ceux où il a déjà exercé. Parce que le premier réflexe d'un demandeur d'emploi, c'est d'aller chercher une entreprise la plus proche de celle où il a dernièrement travaillé pour pouvoir candidater. Donc on va l'aider à travailler sur l'orientation en termes de stratégie de recherche d'emploi, de cible d'emploi pour élargir ses cibles possibles. Et puis, on a d'autres prestations qui sont vraiment l'accompagnement à la décision de se former et s'orienter, et d'autres qui sont plus sur l'accompagnement du projet et la mise en œuvre du projet de formation qui va traduire le projet d'orientation. Donc, je dirais qu'en fonction de la problématique des demandeurs d'emploi, de la maturité, voire de l'immaturité de leur projet, on va leur proposer des prestations d'accompagnement différentes. Alors, c'est un peu compliqué dans des entretiens parfois de 20 minutes par demandeur d'emploi de traiter une question aussi essentielle et individuelle que l'orientation. Donc on a une grosse partie de ces prestations d'accompagnement qui sont sous-traitées par, je l'espère, des prestataires et des partenaires de choix qui aussi ont un certain poids économique dans la région. Voilà, donc une dizaine de prestations en général. Alors, au-delà de ces prestations, il y a l'offre de services de droit, ce qu'on appelle de droit commun pour l'emploi, qui est l'entretien conseil. Normalement, tout entretien d'inscription doit faire l'objet d'un diagnostic approfondi. Voilà. Et tout ce qui est l'accompagnement suivi mensuel, qui se veut plutôt centré sur de la recherche d'emploi que sur de l'accompagnement. On sait que l'accompagnement renforcé, notamment en matière d'orientation, ça prend du temps. Et ça demande aussi de l'investigation et un certain travail d'introspection. Donc, généralement, ça se fait sur des temps qui sont beaucoup plus longs. L'accompagnement mensuel ne permet pas de le réaliser. Voilà, vous parlez donc aussi... on a une palette d'outils à disposition, qui sont par exemple les évaluations au milieu de travail. C'est-à-dire, c'est comment aider le demandeur d'emploi à ajuster sa représentation d'un métier ou de l'exercice d'un métier, c'est-à-dire à aller s'essayer... soit sur un métier nouveau, soit sur un secteur autre que celui dans lequel il a déjà exercé ce métier, pour faire bouger ses représentations, trouver des arguments pour proposer sa candidature, etc. Nous avons des mesures d'adaptation, ce dont a parlé tout à l'heure Dominique, qui permettent de travailler sur l'ajustement, soit sur la réalité d'une entreprise, c'est-à-dire que la formation en général ne permet pas de prendre en compte l'exercice d'un métier en particulier, soit pour effectivement accompagner des transitions. Donc on a par exemple la préparation opérationnelle à l'emploi, l'action de formation préalable au recrutement, qui sont aussi des aides financières. On accompagne les entreprises justement à adapter le profil du demandeur d'emploi, à le former sur la spécificité de son poste de travail. Donc je ne vais pas faire un inventaire à la Prévert, ça va être très ennuyeux, mais tout ça pour vous dire qu'on s'empare vraiment du sujet et qu'on a une offre de services dédiée pour accompagner et les entreprises et les demandeurs d'emploi sur le sujet, parce qu'effectivement, comme on l'a compris, c'est très simple. Bon, nous, on est habitué à être sous les feux de la rampe et on accepte la fonction bouc émissaire que peut avoir Pôle emploi dans notre société. Donc j'ai pour habitude d'entendre, mais c'est quand même pas compliqué, enfin je veux dire, vous avez plein de postes qui sont pas pourvus, les employeurs râlent, vous avez plein de demandeurs d'emploi qui attendent que ça pour bosser, qu'est-ce que vous foutez, il suffit de les former. Bon, je ne vais pas refaire l'exercice qu'a fait Christophe, c'est bien plus compliqué que ça. Si c'était simple, on serait les premiers à s'en réjouir. Et effectivement, ça va très très vite. Donc même quand on essaye d'anticiper sur les besoins, il y a un grand chantier en cours, hein, la gestion prévisionnelle des emplois sur les territoires. Le temps qu'on trouve les demandeurs d'emploi et qu'on les forme, souvent le train est passé. Voilà, donc effectivement, j'insiste aussi sur, sur l'aspect temporel, hein, qui est vraiment très important. J'ai un slide sur les A2S.
D'accord.
Donc aujourd'hui, pour s'adapter à justement cette problématique emploi-formation, nous sommes en train d'ouvrir des agences spécialisées qui ne sont pas du tout des agences communes dans lesquelles sont accueillis les demandeurs d'emploi pour leur inscription et leur suivi mensuel. Il s'agit d'agences que nous avons baptisées les A2S, qui sont des agences spécialisées parce qu'elles réunissent un certain nombre de dispositifs particuliers et innovants, qui sont trois dispositifs spécifiques. Le premier est le contrat, le CSP, le contrat de sécurisation professionnelle, voilà, je mélange les pinceaux, qui est un dispositif d'accompagnement très renforcé pour des licenciés économiques. Qui regroupe alors c'est pas vrai sur tous les territoires, mais au moins pour deux agglos de Poitou-Charentes qui sont La Rochelle et Poitiers, les équipes qui mettent en œuvre ce qu'on appelle la méthode de recrutement par simulation, qui est une méthode particulière qui, pour faire simple, est basée sur l'identification des habiletés pour exercer un métier en dehors de toute qualification professionnelle ou expérience professionnelle. Voilà. Ça permet d'aller détecter des potentiels sur un métier pour avoir un recrutement qui se veut le moins discriminant et aller chercher des gens qui sont très très loin de l'emploi et qui n'ont jamais exercé ces métiers-là. Et la troisième équipe qui est réunie sur ce site, ce sont des psychologues du travail, voilà, qui font de l'analyse de poste et qui proposent aussi des prestations d'orientation. Donc, en gros, c'est de dire que c'est des agences spécialisées qui ont une offre de services dédiée, plus pointue, plus particulière, avec des services plutôt innovants et qui mettent en œuvre aussi le fait qu'effectivement, il faut changer de paradigme et il faut arrêter de traiter les choses. Il faut arrêter de faire de ce qui ne marche pas. Je vais faire court, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de dire que ce qu'on fait, ça ne marche pas et essayer de faire autrement. C'est un petit peu le principe de ces agences spécialisées où sur un même plateau technique, un demandeur d'emploi va pouvoir tout à coup s'interroger son projet avec un psychologue du travail, aller s'essayer sur des exercices qui vont simuler la réalisation de ce métier pour voir si éventuellement il a des habiletés, même s'il ne l'a jamais exercé, tout en même temps faisant un atelier, décider de se former avec un employeur qui vient présenter les métiers de l'industrie, pourquoi pas. Voilà. Donc, ça prouve aussi qu'effectivement, on est en train de s'interroger sur une offre de service un peu dédiée et qui approche le lien adéquation emploi-formation un peu différemment. Voilà. Il y a la notion de s'essayer à, j'ai envie de dire, sur ces plateaux techniques. C'est quand même de se dire, tiens, sur un métier... Je vais aller sur la méthode de recrutement par simulation. Par exemple, on a des exercices sur la grande distribution où on va vous demander de trier des Lego, de prendre des décisions dans un environnement sonore pour s'essayer sur les métiers de menuisier. Vous avez un puzzle en bois à faire avec un temps donné, des gens qui viennent exprès vous interrompre, des gens qui sont manifestement en difficulté à côté, voir comment vous allez, est-ce que vous allez arrêter votre tâche pour l'aider, est-ce que vous allez lui expliquer ou pas, etc. Donc pour des gens qui n'ont pas forcément de qualification et qui ne savent pas trop quoi faire, prendre des détours autres, plutôt ludiques, pour voir si y a une piste envisageable ou pas. Et puis, si on a réussi à aller plus loin dans le questionnement, et puis si on a raté, c'est intéressant aussi de se dire qu'est-ce qu'on a raté, et dans ce qu'on a raté, où est-ce qu'on va retrouver ces mêmes items dans un autre métier où c'est peut-être pas bon d'aller s'essayer, quoi. Voilà, donc ces agences de services spécialisées, nous en avons actuellement deux qui sont déjà en cours de fonctionnement, une à La Rochelle, une à Poitiers. C'est pas la peine d'y aller parce qu'on reçoit pas sur, on reçoit pas sur flux, on reçoit que sur rendez-vous, et on en va en ouvrir une à Angoulême et une à Niort. Voilà. Alors, Pôle emploi, financeur de formation. Alors, de quoi faut que je parle ? Alors, rappelez bien sûr avant tout, la formation professionnelle des adultes et donc ce qu'on appelle la formation continue est d'abord une compétence plutôt dédiée aux conseils régionaux. Nous avons Poitou-Charentes, un conseil régional tout à fait actif sur le sujet, et que nous sommes des nouveaux entrants sur le sujet, puisque comme je viens d'expliquer, c'est plutôt l'évolution de notre offre de services pour être plus performant et pertinent sur le marché du travail. Donc, nous voilà sur ce terrain-là. On ne joue pas dans la même cour, comme dirait l'autre, hein, puisque en termes de moyens financiers, de nombre de financements de places de formation, on n'est pas du tout dans les mêmes volumes. Pour autant, nous sommes partenaires. La RFTLV est un acteur majeur de ce partenariat-là. Et donc, nous venons en complément de l'offre de formation de la région. Alors, pour faire court, la région est principalement sur la qualification, donc sur des formations qui sont sanctionnées au sens positif du terme par une qualification. Et comme nous venons de l'expliquer, nous sommes plutôt sur l'adaptation. Alors pourquoi afficher une complémentarité ? D'abord dans un souci d'optimisation de la dépense publique. Il ne s'agit pas d'acheter la même chose. Et enfin, pour que les demandeurs d'emploi aient une offre de formation la plus large possible. Voilà, et pour travailler en bonne intelligence et en bonne coordination. Donc, une fois qu'on sait que Pôle emploi a des budgets pour acheter des formations, la question c'est qu'est-ce qu'on va acheter comme formation et pourquoi ? On a deux cas de figure. On peut très bien dire on va attendre que la demande elle s'exprime à travers des projets individuels et puis on va les financer. Et puis on a une autre clé d'entrée que de dire on va analyser ce qui se passe sur les territoires, sur notre tissu économique. On va consulter les branches, les entreprises, s'appuyer sur les études de l'OREF, etc. Et on va acheter des sessions collectives pour répondre aux besoins de nos territoires. Alors, on fait un peu les deux. C'est-à-dire qu'on finance des projets individuels parce que l'orientation et l'accès à la formation ne peuvent être la plupart du temps qu'individualisés, mais aussi parce qu'on a une responsabilité d'amener les demandeurs d'emploi sur des secteurs porteurs. En cela, on est plutôt sur de l'achat de sessions collectives. Alors, sessions collectives, des fois difficiles à remplir. Ça fait 2 ans qu'on essaye de faire une session de 12 stagiaires de boucher. On n'y arrive pas. On a acheté aussi des sessions de formation qui répondent à des besoins. On a essayé d'acheter le mois dernier des agents pour l'entretien technique, hein, piscinier, on n'a trouvé aucun candidat. Même sur des métiers verts ou des métiers verdissants, on a du mal à remplir, donc c'est compliqué. Donc comment on peut rendre attractif ? Est-ce que c'est un problème d'information ? Est-ce que c'est un problème de représentation ? Faut qu'on travaille là-dessus. On a aussi des sessions collectives qui marchent très très bien, qui ont beaucoup de succès et on doit refuser du monde. Donc on vous expliquera un petit peu plus tard en termes de méthodologie comment on s'y prend pour savoir quoi acheter. Les aides individuelles à la formation, une fois qu'on a accompagné nos demandeurs d'emploi sur le travail d'orientation et de leur projet, il faut la mise en acte et la mise en œuvre. Donc ça passe souvent par une action de formation. Donc on les finance. Et on a différentes aides individuelles, donc on a des budgets spécifiques pour les licenciés économiques, on en a dans le cadre de la portabilité du DIF, on en a dans le cadre de la réussite à concours sanitaire et social. Je crois qu'on va passer parce que je pense que ça va devenir très 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 technique et très ennuyeux. Voilà. Alors, avant de repasser le micro à Dominique, je vais juste revenir sur comment Pôle emploi décide d'acheter des formations. avec la garantie que derrière, elles sont pourvoyeuses d'emploi. On a vu que l'exercice n'était pas simple. Donc, on travaille sur un système assez orchestré et que l'on veut partager dans la mesure du possible avec nos partenaires. Alors, c'est pas parce que les entreprises ont des difficultés de recrutement qu'elles ont des besoins de main-d'œuvre. C'est pas aussi clair que ça. Donc, on travaille sur ce qu'on appelle l'analyse des besoins de main-d'œuvre de nos entreprises, mais on essaye après de les travailler en regard partagé avec nos différents partenaires et experts sur le sujet. Alors, le problème, c'est que quand on parle de tension sur le marché de l'emploi, à Pôle emploi, on dit bah c'est facile, il suffit de regarder les offres qui ne sont pas pourvues. Parce qu'en plus, on en a plein des offres qui ne sont pas pourvues. Donc, c'est-à-dire des offres qui traînent, qui sont en ligne depuis de nombreux mois. Les demandeurs d'emploi qui les regardent tous les jours se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ça, cette offre ? Ça fait 6 mois que je la vois traîner. Et elle n'est toujours pas pourvue alors que j'ai déjà candidaté. » Donc, des employeurs qui sont vraiment en difficulté et du coup, on met la relation commerciale un peu en danger. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la difficulté de tension. Le problème de la difficulté de tension, c'est-à-dire une offre déposée à Pôle emploi qui n'est pas pourvue. On n'a personne à mettre en face. C'est que si on dit, bah, il suffit que je prenne, moi je suis directeur d'agence à Thouars, je vais prendre toutes mes offres en stock et je vais dire, bah, c'est simple, toutes ces offres-là en stock, elles représentent en plus un poids économique, et bah, il suffit de former les gens là-dessus. Et du coup, dans 3 mois, je vais livrer à mes entreprises des demandeurs d'emploi qui sont formés. Sauf que c'est un petit peu compliqué parce que on n'est pas sur tout le marché pour l'emploi. On aimerait bien avoir une très grosse part de marché, mais on ne l'a pas. Donc ça veut dire qu'en plus, on a déjà qu'une vision qui est un peu erronée, qui est la vision du marché ouvert et pas du marché caché. Et la première chose qu'on dit aux demandeurs d'emploi, c'est de dire... C'est bien de regarder les offres sur le site de Pôle emploi et on vous y encourage vivement et tous les jours, sauf que c'est qu'une vision du marché. Donc si derrière vous ne faites pas des candidatures spontanées, des démarches, etc. sur le marché caché, vous n'allez pas optimiser vos chances de retour à l'emploi. Donc c'est la même chose. Travailler sur les offres qui sont en tension, qui sont en difficulté, c'est qu'une partie de la réalité. Et puis derrière, il y a la pratique de l'entreprise. C'est pas parce que l'entreprise elle dépose beaucoup d'offres et de manière récurrente qu'il y a un vrai besoin. Voilà, donc c'est en ce sens aussi que c'est un peu plus compliqué que ça n'y paraît, l'adéquation offre-demande qui pourrait être un simulacre de corollaire entre adéquation emploi et formation. C'est aussi un petit peu plus compliqué que ça.
Juste un point pour terminer, il y a des choses que je vais laisser tomber. Sur cette question de la formation et la mission qui a été donnée à Pôle emploi dans le cadre de son budget formation, qui est d'être plutôt sur les formations dites d'adaptation, de perfectionnement, en comparaison des formations qualifiantes. Actuellement, on est en réflexion par rapport à ça à Pôle emploi actuellement, parce qu'on s'aperçoit que la question de l'adaptation, si elle demeure réelle, elle est aussi en partie un mythe. C'est l'idée que... avec le primat de la notion de compétence depuis une vingtaine d'années, de se dire, puis ça paraît sympathique par rapport aux personnes, se dire, mais on acquiert plein de compétences dans son expérience professionnelle, c'est vrai. Et donc, pour passer d'un métier à l'autre, il suffirait d'acquérir quelques compétences complémentaires. Or, on s'aperçoit à quel point c'est quand même beaucoup plus compartimenté que ça, et que ça peut renvoyer à la réflexion qu'il y avait tout à l'heure entre les savoirs cœur de métier, les savoirs périphériques. Souvent quand on parle de compétences transférables par exemple, pour mettre en avant qu'on dispose de plein d'atouts, de plein de potentiels qu'il suffit de réinvestir dans un autre emploi, mais on s'aperçoit que c'est toutes ces compétences transversales renvoient plus à des aspects relationnels alors qu'on est en train de parler à des métiers techniques, quoi. Donc on s'aperçoit que l'idée qu'il y aurait comme ça des formations d'adaptation qui résoudraient tout en termes je pense aux demandeurs d'emploi en disant ça, c'est en termes d'embauche, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que par exemple, pour les demandeurs d'emploi, finalement quand ils vont devoir se reconvertir partiellement, c'est parfois plus rentable d'aller refaire une qualification complète sur un métier, et y compris les employeurs. S'ils ont besoin d'un plaquiste par rapport à une activité donnée, ils préféreront quand même un plaquiste qui sait tout faire, même si leur besoin est lié à une activité particulière. Par exemple, simplement monter des plaques et ne pas faire les joints. Mais quelqu'un qui ne saurait pas faire les joints, il aura peut-être plus de difficultés à être embauché que quelqu'un qui est plaquiste complet. Voilà, pour donner un exemple. Et donc, on est en réflexion actuellement sur cette question-là de la formation d'adaptation qui serait la nouvelle formation professionnelle par ces jeux de réflexion sur les compétences et du primat de la compétence isolée finalement des qualifications et des cultures de métier.
Oui, c'est les mêmes qui disent ça et qui constatent quand même que sur la majorité des offres, il y a du bac plus 2 minimum pour des emplois peu qualifiés. Alors, il y a ça aussi, c'est-à-dire que les demandeurs d'emploi, quand on leur propose des formations d'adaptation, ils nous disent « mais attendez, les employeurs demandent tous un niveau de formation ». Donc la première question qu'ils nous posent quand on leur propose une formation qu'on veut courte, donnant accès à l'emploi, parce qu'il y a aussi la problématique de la rémunération pendant la formation, ils nous disent « mais ça équivaut à quoi comme diplôme ?» On leur dit « mais la question n'est pas là, ça vous donne accès à tel métier ?» Oui, mais l'employeur, hein, c'est ce qu'il va me demander. Sur l'offre, il y a marqué niveau bac plus 2. Donc cette formation, elle est vraiment niveau bac plus 2, parce que moi, c'est celle-là que je veux. Voilà. Donc il y a aussi cette contradiction sur le fait qu'effectivement, les demandeurs d'emploi, ils ont du mal à aller sur l'adaptation, mais pas de leur fait. Hein. C'est parce qu'effectivement, il y a cette culture française qui est un peu le culte, sur des offres. Enfin, je veux dire, on a tous regardé des offres, vous avez tous regardé des offres pour l'emploi, j'imagine. Des fois, on a un niveau de qualification qui est assez surprenant au regard du contenu de l'offre, quoi. Parfois un peu déroutant. Oui.
Voilà, bon, j'aurais parlé des diplômes et de leur importance. Sinon, donc...
Nous vous remercions.
Là, on parlait de la représentation du monde dans l'emploi sur l'adaptation.
Moi, je veux bien dire quelque chose sur les diplômes. Les diplômes sont... je parle des diplômes... alors d'abord, je rappelle qu'il n'y a pas que l'Éducation nationale qui propose des diplômes. Hein, il y a le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Jeunesse, etc. etc. Les sports et autres. La question du diplôme, de ce qu'il faut en faire et de est-ce que c'est contradictoire et comment ça s'articule avec la notion de compétence. Alors, c'est très intéressant ce sujet... parce que, en fait, le diplôme reste un élément de référence dans la lecture que peuvent en faire la quasi-totalité des Français. Et pourquoi ? Parce que ce qui fonde notre culture commune, c'est l'école. Et que la notion de diplôme et la notion d'école dans l'esprit du plus grand nombre restent encore très liées. À tort, d'ailleurs, parce qu'en fait, on peut préparer des diplômes bien en dehors de l'école, etc. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire que ce qui fait en fait le socle de la question du diplôme, c'est que ça crée un référentiel commun. Ou plutôt, on le croit. C'est-à-dire, tu as le bac, tu n'as pas le bac. Voilà. Et immédiatement, dans votre tête, à vous tous qui n'avez peut-être pas le même bac, qui n'avez pas passé la même année, etc., immédiatement, ça classe. Ça donne des repères. Et sur la notion de compétence, qui est une notion qui m'intéresse beaucoup, moi, intellectuellement, et à travailler dans le cadre de l'orientation, c'est un vrai problème, cette notion de compétence, parce que derrière, pour le coup, ça paraît une notion floue, comme si le diplôme était quelque chose de fixe, et la compétence, quelque chose de flou. Or, c'est pas vrai, en réalité. C'est-à-dire que le diplôme, tel ou tel diplôme de baccalauréat, ou de CAP, peu importe, ou de master, n'a pas la même valeur dans le temps, parce que c'est une valeur relative en fait. Mais c'est une valeur, le diplôme, qui fixe les choses en termes de compétences, d'orientation et de choix. D'ailleurs, les familles nous disent, effectivement, même titre que plus tard le demandeur d'emploi va dire comment sera reconnu ce que j'ai appris en fait, d'ailleurs on retrouve la validation d'acquis, etc., on va étalonner sur des diplômes. Alors le diplôme, c'est quoi ? Ça peut être un bout de papier, ça peut être que ça. Ça peut être une preuve, ou ça peut être un moyen, ou ça peut être un levier sur un CV. D'ailleurs, les employeurs continuent quand même de regarder beaucoup le diplôme. Alors, c'est d'abord une capacité, a priori, à étalonner un certain nombre de connaissances et de compétences. Donc, je crois qu'il faut qu'on soit toujours tous ensemble très vigilants sur cette question de diplôme. Je ne vais pas prêcher pour la diplomite, ce n'est pas ça le propos. C'est d'avoir des références communes qui permettent quand même de fixer les choses dans des secteurs très dynamiques, mais où les rapports de force sociaux sont très forts, et où, à partir de là, la question du diplôme, elle permet de donner quelques clés de lecture sur ce qui est capable, entre guillemets, de faire un individu en termes de savoir et de savoir-faire acquis dans un cadre organisé. On peut évidemment, enfin j'imagine, développer énormément de compétences dans le cadre de son travail, etc. Le problème, c'est de le faire reconnaître, et de le faire dire, et de le faire savoir. Et le diplôme, les diplômes sont un moyen parmi d'autres, de fixer ça. Donc, il faut qu'on fasse attention. C'est vrai que c'est un peu une spécificité française. En fait, la vraie spécificité, c'est pas le diplôme, c'est le nombre de diplômes. 780 en première lecture, c'est vraiment en lecture simplifiée, 780 diplômes disponibles à préparer sur les territoires. C'est énorme, parce que évidemment, après, c'est la difficulté de s'y retrouver, donc de s'orienter. Et de choisir. Mais en fait, l'enjeu, c'est pas de choisir le diplôme, c'est de choisir la voie. Et pour choisir une voie générale, une voie professionnelle, une voie technologique, il faut évidemment s'interroger très profondément sur ses capacités, sa façon d'apprendre. Et pour le coup, et j'en finis avec ça, c'est vraiment une question centrale, permanente, qui est celle de la pédagogie, c'est-à-dire celle de la façon dont moi, en tant qu'individu, j'apprends. Est-ce que je suis plus dans une... J'ai besoin de cadres généraux pour ensuite concrètement réaliser les choses? Est-ce qu'à l'inverse, j'ai besoin de faire les choses d'abord pour ensuite théoriser à partir de ça? Et ces mécanismes-là, lorsqu'on les a identifiés soi-même, dans sa propre pratique, dans sa façon de fonctionner, c'est très aidant parce que ça permet de faire des choix d'orientation, en tout cas d'alimenter la réflexion sur l'orientation scolaire, mais pas seulement, un peu plus tard aussi. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui se fourvoient ou qui reviennent vers nous le message est quasiment toujours le même. On m'a orienté. On m'a mal orienté. Effectivement, il y a des champs de contraintes pour les adultes, mais aussi pour les élèves. Il y a par exemple, quelles sont les formations disponibles à moins de 30 km de chez moi? Et quand on a 14 ans, même maintenant 17, même 25 parfois, c'est un enjeu majeur. Mais il n'y a pas que la distance, il y a la perception de soi-même, de sa capacité à faire, etc. Aujourd'hui, chez nous, sur les questions d'orientation, la plus grosse difficulté, en fait, c'est les premières années de médecine. La première année de médecine en matière d'orientation, c'est une catastrophe. Catastrophe nationale. Et on parle énormément, vous savez, le fameux 120 000 jeunes sans qualification. Ça fait 15 ans quand j'entends ça, je lis toutes les études d'insertion, on ne sait jamais où ils ont trouvé ces 120 000, mais il y en a toujours 120 000. Donc c'est un chiffre qui est répété à l'envi. La principale difficulté pour nous aujourd'hui en termes d'orientation, de stratégie d'orientation, c'est la première année de médecine, parce qu'en fait, ça amène les jeunes qui étaient les plus brillants scolairement de tous les établissements scolaires dans lesquels ils étaient dans la représentation scolaire la plus forte, c'est-à-dire les filières scientifiques, à venir s'enfermer, s'installer dans une logique d'hyper-compétition où ils savent tous que seuls certains, je ne dis pas les meilleurs, seuls certains s'en tireront, et pourtant ils y vont quand même. Et donc là, ils abordent leur premier échec scolaire. Et c'est extrêmement violent parce que généralement, ils sont assez brillants. Et on a beaucoup de jeunes complètement détruits psychologiquement qui viennent nous voir et pour lesquels ils nous disent « mais c'est fichu, je peux... » Et donc là, on leur propose des solutions à partir de leurs propres capacités, de leur « mais tu sais faire plein de choses, t'as appris plein de choses, t'as des envies. » Et rien. Ils se sont pris un mur et qui leur paraît totalement insurmontable. Et Dieu sait que les dispositifs existent, des dispositifs de poursuite de scolarisation à l'université, ailleurs, des dispositifs de reprise d'études, d'alternance, où ils pourraient découvrir des métiers très intéressants pour eux, à partir du bagage théorique qu'ils ont, et non. Et donc aujourd'hui, on vous parlera toujours de ce fameux élève de troisième qui va peut-être être orienté de force vers les métiers de la maçonnerie, mais en fait, l'essentiel de notre difficulté aujourd'hui, c'est plutôt un public très diplômé, ou plutôt, non, très performant scolairement, mais qui n'obtient pas de diplôme. Et par exemple, en temps de crise, comme actuellement, les filières sélectives, notamment médecine, mais pas seulement, est celle qui fait le plus d'entrées. Donc ne croyons pas que dans la stratégie des familles, et dans un calcul bien précis, on se dise « bon, la situation est mauvaise, donc je vais aller vers les filières qui recrutent, etc. » Non, on va se casser la figure dans les filières sélectives, mais parce que ça rassure d'aller vers la filière sélective en se disant « puisque j'y suis rentré, puisque je vais réussir, je vais trouver du boulot. » Et effectivement, ceux qui obtiennent leur diplôme sont garantis de trouver du travail. Mais ils savent aujourd'hui, ils sont 2000 je crois, hein, cette année, 2450, je ne sais pas trop, ça évolue les premières semaines, ils se découragent, heureusement. Et donc, ils savent qu'il y a 140 places au bout. Et pourtant, ils y vont quand même. Donc, il y a quand même un certain nombre de mécanismes psychologiques. Je rejoins ce qui a été dit sous un angle un peu scolaire, mais il y a un certain nombre de mécanismes psychologiques à l'œuvre. Il faut, il y a le goût de la compétition, il y a la représentation sociale. Voilà. Donc, dans les choix d'orientation, nous, on est confrontés à ça. C'est très intéressant, mon salon d'orientation. C'est cet élève qui vient me voir en me disant, hey, tu sais qu'il y en a, ils sont nombreux, je ne sais pas si je veux faire une école de commerce ou médecine. Et là, il faut parler de mécanisme de valeur. Comment tu verrais le métier de cadre commercial et le métier de médecin? Pour toi, ça recouvre quoi en termes de valeur? Et le problème ne se pose pas. Enfin, c'est pas comme ça qu'ils se sont posés la question. Ils se sont posés la question en termes de reconnaissance sociale, de CSP. Et puis, en général, dans la famille, on a été soit prof, soit médecin, soit archi, soit on voulait le devenir. Puis, quand on n'a pas réussi, on demande à l'enfant de réussir pour soi. Et donc, tous ces mécanismes sont à l'œuvre, si bien que, par exemple, leur présenter les métiers dans lesquels, là où il y a de l'emploi, on s'est aperçu sur les classes de 3e, qu'on fait des études, que c'est très faiblement déterminant. Il y a étude de 2009, il y a 14% des élèves de 3e qui déclarent faire un choix d'orientation en fonction des métiers et de l'emploi. Ça veut dire 86% en fait, qui ne vont pas vers cette logique-là en premier lieu. La première vecteur de motivation, de choix déclaré hein, dans une liste, donc c'est fermé comme méthode, eh ben, en troisième, c'est le choix d'orientation des deux premiers camarades listés. Tu vas là où vont tes copains. Et donc, toutes les théories autour des métiers, en fait, fonctionnent très faiblement sur l'adolescent dans sa structure et dans sa logique. Et je vous vois sourire parce que peut-être qu'un certain nombre d'entre vous, à un moment donné, dans leur scolarité... ont peut-être été là parce que bah, c'était le plus proche, ou parce que les parents voulaient, ou parce que le petit copain, la petite copine. Et c'est vrai, assez tard hein, dans l'âge scolaire. Donc les stratégies d'orientation, les choix des métiers, etc., sont attachés à d'autres dimensions qui sont très, très éloignées du chiffre.
Est-ce que quand même, dans ce que vous venez de dire et au travers de tous ces exposés, et quand on parle des difficultés d'orientation, est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre l'emploi et le travail, entre le statut et l'activité, entre ce que je suis au travers de ce que je fais et ce que je suis au travers du contrat que j'ai signé? En d'autres termes, quand je passe un diplôme, je vais présumer être à la fois, enfin, appartenir à une... avoir une place dans une imagerie sociale, avoir un niveau de revenu. Si en plus je peux avoir un peu de notoriété ou tout au moins une notabilité, c'est encore meilleur. Mais par contre, ce que j'y ferai, pour vous preniez médecin, des points de suture, des médications, être réveillé à 23 heures et tout, je ne me le représente pas. Donc le travail, en fait, tant que je n'y ai pas goûté, je ne sais pas, et je ne sais pas très bien d'ailleurs comment on pourrait faire que certains médecins, le travail représenté par certains métiers soit palpable. Mais du coup, on est aussi sur, me semble-t-il, un déficit partagé de transmission de qu'est-ce que le travail, et dans sa valeur, et dans son contenu. Enfin, non ?
Bon, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, je vais m'en tenir peut-être à deux. Cette question de la représentation du point de vue de l'identité, mais aussi du statut d'autorité, est plus une question qui fait relais à l'intervention qui vient d'y avoir là, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire plus tard, entre guillemets, même si le plus tard, il est immédiat. Ce que je veux dire, c'est que chez les adultes demandeurs d'emploi, la question identitaire, certes, elle est présente, mais elle vient en conjonction avec tout un tas d'autres paramètres. Aussi bien positif d'ailleurs que négatif. Ce n'est pas simplement les paramètres d'urgence. Mais je crois que l'identité est importante. Je crois que chez les adultes, l'identité, c'est aussi que ça va se construire dedans. C'est-à-dire on va faire un choix. Ce choix-là n'embrasse peut-être pas tout. Et puis c'est dans l'activité même de l'emploi, en tout cas, que les choses vont peut-être se construire. Donc pour moi, ce n'est pas la même chose, cette question, pour les jeunes adultes qui cherchent leur premier emploi, ou a fortiori qui cherchent leur filière d'études, les choses ne se posent pas de la même manière, je pense. Deuxième point, parmi beaucoup d'autres, mais en tout cas le dernier que vous avez évoqué sur la question des valeurs travail, de la valeur du travail, pas des valeurs, la valeur du travail. Je crois que la valeur du travail a certainement évolué, et qu'on prend moins de risques à parler des valeurs, liées au travail. Et celles-ci sont peut-être sûrement très diversifiées chez les personnes. Peut-être même qu'on peut, enfin, c'est pas peut-être même, les recherches ou les études ont pu le montrer, il y a un panel de valeurs plus ou moins importantes, voilà, une valence plus ou moins grande que les personnes ont par rapport au travail. Quant à la valeur travail, je ne sais pas si c'est tout à fait ça là aussi qui fait que les personnes conduisent leur parcours professionnel de telle ou telle manière. Je pense qu'il y a le travail qui permet de réaliser certaines valeurs et pas d'autres, et ça c'est variable d'une personne à l'autre.
Je comprends bien ce que vous voulez dire. Il me semble, pour avoir... je n'ai jamais travaillé à Pôle emploi, mais j'ai par contre pas mal côtoyé des demandeurs d'emploi à toutes catégories. Il me semble que l'appétence à un emploi, à une activité salariée, statutairement cadrée dans un contrat, l'appétence à un contrat nécessite, enfin, ou requiert un minimum d'appétence pour le fait de travailler. Je ne dis pas que ça suffit, je ne dis pas que tout est corrélé. Je dis juste que s'il n'y a pas cette appétence de départ, pour différentes raisons, enfin, qui seraient très longues d'inventorier, peut-être un peu complexes, mais s'il n'y a pas cette appétence à travailler, c'est-à-dire à s'investir dans une activité qui va faire que je vais produire, donc être utile, donc il y a une idée d'utilité sociale et sociétale quand même, s'il n'y a pas ça dès le départ, c'est quand même un petit peu compliqué. Tous les me semble-t-il, les processus de formation vont être un peu plus difficilement efficaces.
Juste un mot rapide, mais c'est juste pour faire un lien, parce que je ne vais rien développer là. Ce que vous venez de dire sur le travail, que j'aimerais discuter, mais je vais vous laisser la parole, c'est ce qu'on a voulu développer par rapport à la formation. C'est-à-dire, si on n'interroge pas la formation, alors je ne sais pas si c'est par rapport à l'appétence peut-être, mais sûrement d'autres choses. En tout cas, par rapport au rapport que les gens ont à la formation, appétence et d'autres choses, on n'a pas compris ce que sont, comment on peut travailler les démarches de la formation. Je voulais juste faire ce lien, mais je vous laisse...
Oui, puis c'est surtout que c'est faire vivre, c'est pas une offre de service qui est systématisée. Hein. Donc, mais en revanche, déjà, si j'avais la garantie que chaque conseiller ne faisait pas l'économie de ce questionnement dans tout entretien d'inscription, ça m'irait bien. Quoi. C'est un levier, voilà. C'est l'angle, la formation est un levier, mais on a aussi une responsabilité dans notre offre de service de proposer la mise en mouvement, quoi. Est-ce que ça a été interrogé? Est-ce que ce n'est pas des formes d'échecs qui font qu'il y a une inhibition à y aller, à ne pas y aller? Enfin, il y a plein de choses à questionner. Voilà. Après, effectivement, tous ne sont pas prêts, ne sont pas partants pour se questionner. Enfin, il faut avoir aussi faut avoir une petite capacité à introspection, à s'exposer... Voilà, parce que du coup, effectivement, on va parler des valeurs qui soudain, enfin, pourquoi j'en suis là, qu'est-ce qui a conditionné mes choix, donc ça renvoie à des trucs, tout le monde n'a pas envie d'aller remuer tout ça, quoi. Donc voilà, puis ça veut dire quoi? Vous me voyez chez un psycho du travail, mais un psycho, et un, bon, voilà, il y a un tas de choses. N'empêche qu'il faut absolument qu'on questionne ça, il ne faut pas qu'on passe à côté de ça, quoi. Voilà.
Une question à Monsieur Roche. J'entends parfaitement bien le discours qui identifie une somme de savoir et de savoir-faire par rapport à des diplômes et donc à des quantités de qualifications qu'on va appeler niveaux. De mémoire, il y a 1380 diplômes si on intègre les titres en France.
Ça, en fait, mais ça dépend ce qu'on intègre.
Et voilà. Mais par contre, il y a quand même... Alors, je mesure bien pourquoi les OPCA ne sont pas représentés. Ils représentent pourtant en volume une offre de formation et un financement de formation extrêmement important. Maintenant, c'est clair, ils ne font pas partie des institutions des deniers publics, on va dire encore que... Bref, par contre, il y a des... Oui, c'est ambigu. Il y a quelque chose que les diplômes ne pourront jamais mesurer. C'est que lorsque quelqu'un travaille dans une entreprise, il y a bien le fait qu'il sache techniquement faire quelque chose, qu'il sache s'exprimer, qu'il sache faire la synthèse ou l'analyse de quelque chose. Il y a le savoir-faire dans ses technicités, dans sa dimension relationnelle. Mais il y a quand même aussi le fait qu'à un moment donné, une compétence, elle doit être aussi collective. Et que sauf à pouvoir passer un diplôme collectif, On ne pourra jamais mesurer la capacité de quelqu'un à changer d'environnement, à répercuter un mode de management, à s'intégrer dans un mode d'organisation, à savoir lire une procédure au-delà de ce qui est lu, à savoir intégrer le mode de management de son, une organisation plutôt matricielle, plutôt pyramidale. Ça, seul le savoir-faire, le vécu de la personne saura témoigner de ce que... Ah oui, vous avez travaillé chez Bouygues. Donc, vous avez l'habitude des organisations matricielles. Ah, donc vous avez travaillé chez Dupont. D'accord, vous êtes plutôt sur cette culture-là. Aucun diplôme ne peut en témoigner, ce qui est parfaitement normal. Mais donc le diplôme, est, me semble-t-il, enfin dans mon esprit, dans ma représentation, c'est à la fois quelque chose qui spécifie une somme de possibles, mais ce n'est qu'une somme de possibles. C'est-à-dire qu'il y a il faudrait une sorte de... Mais ça, c'est le professionnalisme du recruteur qui ensuite en témoignera. Il faut une capacité à lire un processus de professionnalisation non diplômant et qui ne peut pas l'être.
Alors, je vais réagir là-dessus. En fait, le but du diplôme, ce n'est pas de mesurer, c'est de certifier. C'est un peu technique, excusez-moi. Mais c'est-à-dire, c'est d'étalonner la capacité d'un individu au regard d'un référentiel.
Oui, c'est ça.
Est-ce que oui ou non, en 0 ou en 1, il a atteint le niveau moyen, considéré comme moyen dans le référentiel. Donc on ne mesure pas à travers le diplôme, on certifie, on dit oui, là, effectivement, la capacité A. Donc ça, c'est la première chose que je voulais introduire. Alors après, vous parliez par exemple de développement ou d'évaluation de compétences collectives. Alors la construction d'un diplôme, j'ai la chance de participer à des groupes de création autour des diplômes, c'est souvent un exercice intéressant parce qu'il y a plein de choses, c'est pas seulement une addition de compétences. Les compétences, alors dans le sous-ensemble dit des compétences comportementales, on trouve un sous-ensemble qui vise à voir comment dans les activités, dans les savoirs et savoir-faire, une personne va développer des compétences collectives et d'abord... quelle est sa posture dans un collectif de travail et dans un groupe classe notamment, mais pas seulement, à travers ses stages et autres. Et puis deuxièmement, comment est-ce qu'on peut reconnaître ses compétences collectives? Et le diplôme ne fait que rendre compte du fait que la personne a ou pas exercé dans le cadre de cette matrice de ce référentiel des activités collectives qui sont transformées en compétences collectives, mais sur lesquelles il va être apprécié individuellement. En clair et pour faire simple, on est tous ensemble, peut-être que dans un groupe de travail, là où vous êtes leader naturel, vous prenez le micro, vous parlez, les autres s'expriment moins. Donc on peut certifier le fait que vous savez vous exprimer à micro, poser des questions, et que vous osez le faire, et c'est sur cette dynamique-là, là c'est juste pour un exemple, vous osez parler en mode collectif, ça peut être certifié par un diplôme qui dira « Monsieur peut s'exprimer dans un mode collectif ». Maintenant, vous faites le lien direct entre... le diplôme, enfin ce qui a été certifié et la façon dont c'est mis en œuvre. Et c'est peut-être là qu'on touche à la notion de compétence. Alors je vais juste faire une toute petite incise sur compétences et formation initiale. C'est un vrai sujet, puis c'est un vrai enjeu méthodologique. Depuis 2006, tous les référentiels de formation initiale ont été revus sous l'angle de la compétence. Donc on est parti, et c'est très intéressant de l'observer, on est parti donc de la matrice... de Lisbonne, donc la matrice européenne. Et puis, dans la matrice européenne, écoutez-le bien, c'est vraiment très important, il y avait 6 compétences. Et nous, la France, c'est quand même pas pareil, on a introduit une 7e. Et notre 7e compétence, qui est celle sur laquelle moi je travaille et je développe mes travaux et j'espère le faire encore une vingtaine d'années, c'est la capacité à s'orienter. C'est-à-dire que désormais, depuis l'année dernière, pour la première fois, au brevet des collèges, les enfants de collège, les élèves de 3e, sont évalués sur leurs compétences à s'orienter. Voilà. Donc, on a les 6 premières compétences, alors c'est essentiellement disciplinaire, hein, les maths, le français, etc. Et puis donc, on a les 5e, 6e et 7e compétences, ce qu'on appelle les piliers d'évaluation. Alors, la 5e, c'est, de mémoire, la 5e, c'est la capacité à utiliser les applications informatiques, les outils informatiques, c'est la compétence informatique dont parlait Christophe tout à l'heure. La 6e, c'est ce qu'on va appeler vie sociale et civique, c'est la capacité à se comporter en groupe, à être un citoyen à peu près convenable au regard des demandes de la société. Et le 7e, c'est la capacité à s'orienter. Et donc c'est là-dessus qu'on commence à travailler maintenant sur le fond pour outiller les enseignants sur comment certifier qu'un jeune en devenir, enfin jeune pour l'instant, adulte en devenir, a une capacité à s'orienter. Et alors,
pour vous faire sourire et parce qu'il est 10h30, pour vous dire par exemple qu'une des capacités à s'orienter est évaluée de la manière suivante, c'est la capacité à savoir nager. Nous avons travaillé sur des matrices de rapprochement entre disciplines, etc. Et par exemple, dans l'activité physique et sportive, la capacité d'un élève à se déplacer dans un collectif de travail, la capacité par exemple au football, pas à mettre des buts, mais à savoir jouer en mode collectif, à savoir se déplacer sur un terrain et à spatialiser son déplacement, est un enjeu majeur. Pourquoi ? Alors pas pour le football, nous en sommes tous privés ce soir et personnellement ça ne m'a pas manqué. Eh bien, c'est la capacité en fait à se repérer dans le rapport aux autres et dans la dimension physique. On a un vrai problème majeur depuis un certain temps sur les élèves, c'est qu'ils ont un problème de rapport aux autres, alors qu'ils passent après par la violence, etc. Mais qui est en fait lié à des problèmes essentiellement de repères physiques au monde qui les entoure. C'est-à-dire que notamment en géométrie, on voit une très nette dégradation des comportements. On a un taux d'accidence en deux roues, etc., qui augmente. Et on a beaucoup mis ça sur l'âge de l'adolescence, sur le fait qu'il y a plus de véhicules qu'avant. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est qu'on a un vrai problème de rapport aux autres dans l'orientation spatiale. Par exemple, nos jeunes générations, depuis 10 ans, ont des problèmes d'orientation au sens spatial. Donc, quand on travaille sur la compétence à s'orienter, donc ce qu'on appelle la 7e compétence clé du socle commun, eh bien, les élèves, depuis cette année, depuis l'année dernière, au mois de juin, là, pour la première fois, ont été évalués en France sur leur capacité à s'orienter. Et dans cet ensemble-là, il n'y a pas que la capacité à nager ou à se déplacer sur un terrain de foot, je vous rassure, il y a d'autres dimensions. Mais par exemple, la capacité à savoir décrire un système de formation, à se projeter en termes d'orientation, la capacité à savoir décrire 3 métiers de 3 secteurs différents font partie des compétences qu'on évalue maintenant et on va les certifier en disant qu'il a une capacité à s'orienter. Voilà. Tout ça, c'est des travaux qui sont issus, en fait, des travaux qui sont faits depuis une trentaine d'années sur la question des langues. Je vous entendais parler tout à l'heure des stratégies de tri. On ne l'avait pas dit comme ça, mais moi, je l'appelle. Par exemple, tout le discours qu'on tient sur l'importance des langues. Les langues, c'est très important. Il faut absolument que tu te formes en langue. Je sais, la semaine prochaine, je sors un guide sur les langues. On m'a rabâché ça, donc je l'écris. Sauf qu'il n'y a que 8% des emplois en Poitou-Charentes dans lesquels le salarié utilise régulièrement les langues. En revanche, comme mode de tri dans les CV, c'est très intéressant pour l'employeur, pas pour moi, pour l'employeur. C'est-à-dire que l'employeur pose la question des langues, alors que lui-même, on ne la maîtrise pas. Et d'ailleurs, vous êtes régulièrement confronté à des situations de recrutement. On vous demande si vous maîtrisez une langue, alors qu'on ne peut pas vous faire un questionnement d'anglais, parce qu'en face, l'employeur n'a pas la maîtrise de la langue en question. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir quelles sont, en fait, dans le système scolaire, par exemple, les clés de tri sur l'orientation. Bah, les langues, c'est une clé classique. Mais aujourd'hui, on évalue par compétences, et on va le faire de plus en plus. Donc, ça a démarré en 2006. C'est la première année qu'on le met en place. Et l'objectif, en tout cas celui que j'appelle de mes voeux et qui ne se mettra pas en place, c'est la disparition pure et simple du baccalauréat, que j'espère pour 2014, puisque en mettant en place une évaluation par compétences, on devrait au moment du baccalauréat, c'est-à-dire la fin du cycle de lycée pour faire simple, simplement pouvoir certifier d'un degré d'atteinte de compétences dans des champs disciplinaires. Et puis si la personne décide d'aller travailler, elle poursuivra son travail avec son portefeuille de compétences, et puis si elle décide de poursuivre ses études, elle poursuivra par une progression de ses compétences dans les domaines qui l'intéressent. Donc l'idée, c'est faut-il faire tomber à un moment donné les éléments clés qui ont structuré en fait en gros les 200 ou 300 dernières années autour par exemple de ce sacro-saint bac. Est-ce que le bac c'est une photographie à un moment donné d'un niveau de compétence? On peut le voir comme ça aussi. Moi c'est ce que je plaide au niveau de mes collègues c'est le baccalauréat, le diplôme ne s'oppose pas à la notion de compétence, c'est la photographie, un tenté d'une atteinte d'un niveau de compétence. On peut ne pas être d'accord
rapidement parce qu'il va bientôt falloir clore la
vous me parlez d'éducation, tout ça, mais de formation. Mais qu'est-ce que vous pensez de classer les élèves, par exemple, enfin, c'est ce qu'ils parlent, très tôt, ils veulent faire enfant à risque, enfant normal ou enfant moyen, quoi. Déclasser, enfin, c'est.
L'évaluation.
Ça peut passer, mais c'est pas excellent, quoi. Voilà, qu'est-ce que vous en. C'est dès le jeune âge. Alors, on est classé, ils sont classés dès 5 ans, quoi, je veux dire. Et 5 ans après,
On est un peu loin de la relation pour formation. Je dois vous avouer que.
Je vous le dirai en tout à l'heure.
Moi, je voulais pas. Pour
enregistrement.
Bien sûr. Vous nous avez enregistré, mais je ne suis pas.
Oui. Enfin, Ce que je voulais vous dire, plusieurs choses. C'est vrai que Gérard Roche a parlé du diplôme comme une référence, et c'est vrai que je trouve qu'on y réfère beaucoup. J'en veux pour preuve que dans les conventions collectives, on fait référence, dans les fiches de poste, à une notion de diplôme. C'est vrai que quand à Pôle emploi, une entreprise dépose une offre, c'est très souvent lié à « devra posséder tel et tel diplôme ». Donc c'est une référence très très forte dans notre société. Et ce que je voulais vous dire, c'est que pour nous, la formation initiale, elle prépare un métier, alors qu'un emploi, c'est un métier qui s'exerce dans une entreprise qui est présente sur un territoire. Et donc il y a des éléments de contexte. Et un des problèmes aujourd'hui dans notre société, c'est la non-exposition des métiers, des emplois. Aujourd'hui, qui voit ce que fait un boucher ? Qui voit ce que fait un soudeur ? Plus personne. Et donc, quand je disais que dans le paradigme de la relation, enfin, de la relation pas formation, l'orientation et l'information est, à mon avis, un des grands enjeux de notre société pour les années à venir. Il faut qu'on arrive à trouver un substitut à ce qui était autrefois évident, naturel, qui était... Voilà.
Non, mais justement, je l'ai invité parce que vous avez peut-être des questions, des préoccupations qui n'ont pas vu le jour. Alors peut-être que profitez-en au moins pour... Oui.
Moi, je voulais juste savoir où est-ce qu'on peut se renseigner pour savoir quel métier recrute. Quand on veut, par exemple, se reconvertir, où peut-on se renseigner pour savoir que tel métier va recruter plutôt que de s'engouffrer encore dans une formation qui ne va pas recruter ?
Alors, une multiplicité d'informations, je vais prêcher pour ma paroisse, mais sur le site de Pôle emploi, vous avez par région... les métiers qui recrutent, ça descend même jusqu'au niveau bassin, donc sur les métiers les plus demandés. Puis vous pouvez aussi, même si vous n'êtes pas demandeur d'emploi, franchir la porte d'un site de Pôle emploi et demander à avoir accès à la documentation, d'être renseigné, voir si on peut vous recevoir. Ça fait partie aussi de notre offre de service. Mais sur le site, vous avez jusqu'au niveau des bassins ce qu'on appelle BMO, besoin de main-d'œuvre, voilà, qui vous présente... les chiffres de fin de l'année dernière. Parce qu'il faut que ça soit nécessairement territorialisé. Hein. C'est... L'un ne va pas sans l'autre.
Alors, ça, c'est effectivement le besoin immédiat. Vous avez donc sur le site de l'Agence régionale de l'information, www.arftlv.org, une entrée études et statistiques, dans laquelle vous trouverez, d'ici la fin de l'année, une étude sur, quantitative sur les secteurs et les métiers qui vont embaucher dans les 10 ou 15 prochaines années. Et ensuite, vous avez des études. Alors, une fois que vous avez choisi le secteur ou le métier qui vous intéresse, eh bien, toute la panoplie de métiers qui vont effectivement être pourvoyeurs. Et on parle beaucoup, nous, de l'évolution des savoirs et des qualifications, parce que je pense que c'est... On peut effectivement rechercher un métier, mais on peut aussi réfléchir par les qualifications et se demander quelles sont les qualifications qui seront les plus attendues dans les années à venir. Et à partir de là, effectivement, se dire ben maintenant dans quels emplois, parce que vous avez bien compris que la relation pour formation, ce n'est pas une adéquation, dans quel secteur ou dans quels emplois je vais pouvoir exercer ces compétences.
Ouais, et sur quel territoire ?
Alors, du coup, sur quel territoire, mais... Donc voilà deux sources d'information, il y en a, et celles-ci sont régionalisées, hein, parce que là on parle en Poitou-Charentes.
Voilà, merci de votre attention.
Merci public. Public aimé.